Allô, Julie!
Bonjour!
Toujours un peu avant de commencer, là, pour être sûr que tout est conforme. Donc, Julie Lauzon a une formation en fait là, au niveau en agronomie à l'Université de Laval. J'ai pris aussi en note que tu avais une maîtrise de sciences animales. Ça a piqué ma curiosité aussi. Donc, on peut en jaser un peu plus. Tu as écrit un livre dernièrement que moi, j'ai lu aussi, que j'ai trouvé ça vraiment cool, qu'enfin, on parle des chiens qui ont des besoins particuliers comme le chien sportif. Aujourd'hui, on va aller définir, bon, c'est quoi un chien sportif, c'est quoi aussi tes intérêts à devenir agronome, puis bon, on va aller pousser un peu à ce niveau-là, au niveau de la nutrition. Fait que je t'invite à te présenter, Julie, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu fais ça, puis surtout, quel était ton intérêt et ta motivation là, pour devenir agronome?
Écoute, moi, l'agronomie, je ne connaissais pas du tout c'était quoi, avant que ma conseillère en orientation au cégep me dise « t'as pas les notes pour aller en médecine vétérinaire, voici un métier qui pourrait peut-être t'intéresser et qui pourrait peut-être t'aider à obtenir les notes ». Fait que moi, quand je suis rentrée en première année en agronomie, ça ne m'intéressait vraiment pas de travailler là-dedans. J'étais en mode, moi, je vais être vétérinaire. Puis c'est vraiment à force de faire des cours, de faire des stages, que là, l'agroalimentaire en général a vraiment piqué ma curiosité, que je me suis dit, OK, c'est vraiment complexe et l'agronome touche à tellement de choses, c'est tellement vaste. Puis dans le fond, je pense que ça m'intéresse plus que la médecine vétérinaire, qui reste un métier vraiment extraordinaire, je trouve. Mais on dirait que ça me donnait plus de flexibilité, puis la personne curieuse, toujours avide d'apprendre en moi, était vraiment comme, oh mon Dieu, j'ai beaucoup trop d'opportunités, mais j'aimais même pas la nutrition. Mon prof de nutrition en première année, ça n'a pas marché, je trouvais ça trop compliqué, je trouvais pas ça intéressant. Et j'ai fait un stage en nutrition, puis là, j'ai appliqué les notions, puis je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ma maîtrise en sciences animales, je l'ai faite avec la dite prof de nutrition de première année, que ça n'avait pas cliqué du tout. Fait que ça l'a vraiment, le fait de travailler sur le terrain et de faire de la nutrition animale, ça l'a vraiment, ça a été ma voie. Puis j'ai poursuivi des études à la maîtrise là-dedans également. Puis là, ça va faire 10 ans que j'ai terminé déjà. Ça fait 5 ans que je travaille au niveau des animaux de compagnie. C'est quand que je me suis mis à avoir des chiens, à m'impliquer dans le monde canin, à regarder c'est quoi que mes chiens mangent, que là, j'ai comme un peu « fell into the rabbit hole », comme on dit en anglais. Là, j'ai comme commencé à lire là-dessus, puis je me suis dit « eh, boy, c'est tout qu'un monde, hein? » Fait que j'en ai fait une carrière, finalement.
Puis dis-moi, on parlait, tu sais, de l'agronomie. Est-ce qu'on peut donner des choses que ça couvre peut-être dans les deux extrêmes pour donner à quel point c'est immense comme monde, là, l'agronomie en général, comme dans le monde du chien, autant que l'agronomie, c'est encore plus immense?
Oui, c'est ça. C'est que moi, je suis vraiment dans un petit créneau de l'agronomie qui est la nutrition des animaux de compagnie. Au Québec, on est peut-être 5-6 à faire ça. On n'est vraiment pas beaucoup. Puis, dans le fond, il peut y avoir un agronome qui travaille pour la Ville de Montréal pour les parcs. Mais être sûr que les parcs sont en santé, la gestion des arbres, la gestion de tout ça. Les agronomes qui travaillent au niveau de la transformation alimentaire sont dans des usines de transformation, la fabrication du pain, ces choses-là. Il y a des agronomes qui vont travailler avec les animaux de ferme, exemple les vaches, les cochons, au niveau de la nutrition, de la gestion de troupeaux. Il y a des agronomes de champs, donc les cultures, tout ça. Fait que c'est vraiment d'un bout à l'autre de l'agroalimentaire. La génétique, il y a des agronomes qui se sont spécialisés en génétique aussi. Fait que c'est un bac de 4 ans, mais il y a 4 profils dans le bac. Donc, il y a comme 4 bacs différents dans le même bac que tu peux faire. Puis après ça, tu peux te aller chercher une formation supplémentaire avec une maîtrise, doctorat et compagnie. Fait que c'est vraiment, vraiment large. C'est vraiment intéressant.
Wow, vraiment. Puis au niveau là, de nutrition animale, moi, je viens d'un métier de dans les magasins qui vendent de la nourriture. On a été bluffés par toutes les compagnies de nourriture là, qu'on tient. C'est quelque chose que moi, je me suis intéressée, mais c'était plus le niveau volet comportement versus qu'est-ce qu'on donne comme aliment aux chiens. C'est les impacts de la nutrition sur le comportement est quand même immense.
Exact. Oui,
absolument. De pouvoir se creuser la tête puis de voir que finalement, on peut changer une couple de choses dans la vie de notre chien, ça peut tout faire la différence. J'imagine que tu es au niveau du chien sportif, parce que tu es beaucoup plus spécialisé au niveau du chien sportif que le chien de compagnie. Plus ton dada, surtout, hein, je pense.
C'est ça, je m'en allais dire. C'est plus un dada qu'une spécialité, mettons, parce que dans le fond, la spécialité, terme technique, il n'y en a pas en agronomie. Donc, il y a vraiment juste certains métiers qui peuvent se dire spécialistes, qui vont aller chercher une formation qui va être une spécialité. Fait que moi, c'est vraiment plus, mettons, mon expertise est au niveau des animaux de compagnie. Mais mon dada, c'est les chiens sportifs parce que je fais du sport avec mes chiens. Puis c'est vraiment, je me suis intéressée à comment est-ce que je peux aider leur performance via l'alimentation. Mais tu sais, dans le fond, moi, je travaille pour une compagnie de nourriture crue, puis on fait de la nourriture pour monsieur, madame, tout le monde, les chiens de monsieur, madame, tout le monde. comme la plupart des nourritures qu'il y a sur le marché. Et là, je me suis vraiment intéressée à, OK, mais est-ce que ça fait une différence si mon chien fait de l'agilité 4 fois semaine? Mettons, c'est-tu correct si je donne juste la nourriture de base? Fait que c'est d'où mon intérêt qui s'est développé. Et pendant la pandémie, être plus chez moi, j'ai écrit un livre. Je me suis dit, je vais mettre ça sur papier, toutes ces belles idées-là.
Oui, puis le livre que tu as écrit est vraiment très, très il est détaillé, mais en même temps, pour ceux qui sont moins à l'aise avec le côté vulgarisation, là, c'est vraiment facile à lire. C'est pas quelque chose qui est difficile à aller creuser puis comprendre. T'sais, la notion, c'était vraiment bien là, dans la simplicité, là. T'sais, sans tomber dans le super structuré puis les grands mots, les grands termes qu'on se perd, là, c'était vraiment bien. Fait que ceux qui ont envie là, de pouvoir profiter du livre, moi, je le recommande fortement. C'est pas un gros livre non plus. C'est niaiseux, mais quand tu arrives comme le dog food, là, c'est une brique.
Oui,
c'est
impressionnant, c'est ça.
Exact. Fait qu'il faut vraiment être passionné là, pour pouvoir vouloir y aller. Fait que des fois, ça aussi.
Oui,
ça
de toute façon, les briques sont disponibles. Le NRC, les gens peuvent l'acheter. Ouais. Cette brique-là, les gens peuvent l'acheter. Les moteurs de recherche d'articles scientifiques sont là. Moi, mon but, c'était pas de faire un livre pour une formation académique pour un professionnel. Mon but, c'était vraiment de faire. Bon, mon ami qui fait de l'agilité avec moi, là, qui a mille et une questions, là, je vais juste lui donner mon livre, il vend, puis lui dire, tiens, renseigne-toi, tout est là-dedans.
Oui, ouais, ben c'est exactement comme ça qu'on se sent aussi en lisant. Puis j'ai trouvé que sans aller trop dans les détails, il y a beaucoup de, tu sais, on parle des aliments, on parle des vitamines, on parle, mais sans être trop dans le creux de l'histoire, là, puis donc on ne se perd pas. Fait que c'est vraiment vraiment bien. Fait que moi je le recommande fortement. Je vais mettre le lien aussi là pour que les gens puissent aller directement, soit sur c'est ton Facebook hein, le meilleur accès. Sinon,
oui,
il est en vente sur Etsy. Là.
C'est ça, parce qu'il est en vente sur Etsy, mais je ne sais pas si il va rester là longtemps. Là, okay. Je vais voir comment ça va aller. Mais via la page Facebook, là-dessus, il y a les séminaires, il y a le livre. Je fais des petites publications de temps en temps avec des petites informations. Fait que c'est super simple. C'est Julie Lauzon, nutrition chien sportif. Ça dit ce que ça a l'air dire.
Exact, c'est facile à trouver, puis c'est un peu ce qu'on veut avoir. On revient du côté du chien sportif, oui. Tu sais. Bon. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui va marcher 1 heure par jour avec son chien. Qu'est-ce qu'on considère ou quels sont les points majeurs pour dire que mon chien, c'est vraiment un chien sportif? Parce qu'avant de commencer à tomber dans les détails, il faudrait savoir à qui on s'adresse là, quand on parle de son chien sportif. Ouais.
C'est sûr que marcher à tous les jours, c'est juste normal pour un chien. Un chien, c'est fait pour, et dépendamment des races, il y en a des plus tolérantes que d'autres, mais c'est fait pour marcher. Ils ont 4 pattes, ils ont du plaisir dans la dépense d'énergie. Marcher 1 heure par jour, c'est de base. Un chien qui marche 1 heure par jour, il est même à la limite considéré sédentaire dans le sens où c'est juste normal pour lui de faire ça. On va tomber dans le chien sportif quand on va augmenter la dépense de base en énergie en pratiquant un sport. Et ça, ça a plusieurs échelles, ça a plusieurs gradations, si on veut. C'est qu'on peut... On peut augmenter la dépense d'énergie lorsqu'on va marcher tout simplement en allant courir. Donc, juste de penser de marcher à courir, on va augmenter la dépense en calories à l'heure par kilo de poids corporel. On peut rajouter de l'inclinaison. Donc, aller marcher en montagne, aller courir en montagne. Là, on augmente. Aller traîner un poids, avoir de la traction, que ce soit nous, un sac, un traîneau. Là, plus ça va, plus on augmente. Puis plus on va aller jouer au niveau de l'intensité et de la distance parcourue plus que la durée. Ce que je veux dire par là, c'est que aller marcher une demi-heure puis aller courir une demi-heure, tu n'as pas fait la même distance. Fait que c'est une belle manière de le comprendre, de le voir, de dire, OK, bien, plus je vais monter en intensité, plus je vais aller vite, plus je vais avoir une distance parcourue, donc plus je vais avoir de l'énergie de dépenser. On tombe dans le chien sportif lorsque, en plus de tout ça, donc d'avoir des marches qui sont plus que juste aller marcher, il va avoir la pratique d'un sport. Parce que ça, ça va vraiment augmenter énormément la dépense en énergie. Vite, vite, là, si je peux juste te lancer des petits chiffres comme ça, là. Être debout et courir, la dépense en calories augmente de 1 à 2 calories par heure par kilo de poids corporel, OK? Juste entre être debout puis courir. Quand on passe de être debout à pratiquer un sport, donc de la traction, de la chasse, du herding, de l'agilité, de l'obéissance, de la détection, de la recherche, on passe de 80 à 300 calories de plus par heure par kilos de muscle. Wow. Donc, ça va aller vraiment plus loin parce que là, on va solliciter des muscles, on va lui solliciter de la concentration. Il va avoir une énorme durée, il va avoir une énorme intensité. Et là, c'est sûr que ça varie. Il y a des sports qui demandent beaucoup plus que d'autres. L'intensité varie aussi. Mais c'est vraiment ça qui fait une différence. Et là, tu peux le faire une fois semaine, deux fois semaine, trois fois semaine. On monte dans l'échelle de dépenses d'énergie.
Exact. Donc, finalement, quelqu'un qui va aller faire un sport, qui en a, on ne parle pas de quelqu'un qui fait ça une fois de temps en temps en initiation à de l'agilité en plus de sa marche. Là, on parle de quelqu'un qui commence à prendre ça au sérieux, qui fait du sport. Nous, on fait de l'IGP chez nous, on fait protection. Donc, les dépenses énergétiques, elle est vraiment haute là, dans la protection. Donc, à ce moment-là, tout dépendamment le degré ou la quantité qu'on va faire dans la semaine, ben, il va falloir adapter la nutrition. Est-ce qu'il y a un signe? T'sais, on dit toujours si le chien commence à perdre du poids, perte de focus, des choses comme ça, ça commence à être des signes que la nutrition n'est peut-être pas adaptée. Là.
C'est ça. Puis moi, on dirait que je suis vraiment, c'est peut-être mon défaut d'agronome, mais je suis vraiment dans la prévention plus que dans, mettons, constater. Mais je dirais, si, mettons, un sport fait partie de votre routine hebdomadaire, comme dans votre semaine, vous avez des journées prévues pour plus que de la marche, peut-être que vous êtes un fan de canyons randonnée, vous, la fin de semaine, là, vous êtes dans le bois, vous êtes dans les montagnes tout le temps, ça compte. Fait que dès que ça commence à embarquer dans la routine, bien là, tout de suite, je jetterai un œil à l'alimentation. Et là, oui, si on remarque que le chien est plus capable de garder une bonne condition de chair, donc quand on le flatte, on fait « Mon Dieu, je sens bien plus ses côtes qu'avant, je comprends pas. » Là, c'est sûr que là, il est même pas limite trop tard, là, mais il faut allumer parce qu'on veut pas tomber dans le risque de blessure quand le chien il se met à perdre la masse musculaire et tout ça. Fait que, moi, je dirais, dès que ça fait partie de la routine hebdomadaire, tout de suite, ça vaut la peine de commencer à regarder ça.
Donc, quelqu'un qui fait des sports, par exemple, je vais donner l'exemple du duck diving. Je ne sais pas si le duck diving est considéré comme un sport à haute intensité dans un sens. Dépendamment le niveau d'énergie que le chien dépense juste sur le quai aussi, là, en bas de
partir. C'est ça. Mais nager, c'est extrêmement épuisant. Fait que, si le chien saute à l'autre bout de la piscine 10 fois pour ramener le jouet, ça se compare à bien d'autres dépenses d'énergie dans des sports, là.
Exact. Fait que si, dans le sens où, si, par exemple, on dit, OK, à partir de l'été, on commence à faire un sport, mais on peut commencer à prévenir, en fait, avant de commencer à faire le sport, préparer son chien, j'imagine, aussi à des niveaux comme ça. Ouais. Mais pourquoi que je dis d'avoir des signaux, c'est que, des fois, dans certains cas, il y a des gens qui vont pas y penser, sont stressés par le training, ça demande beaucoup d'énergie, parce que là, on se dit, OK, il faut que je planifie mes choses, OK, je vais faire ça, comme ça. Et des fois, ça vient mêlant. Fait que des fois, on arrive, puis c'est ça qui se passe. Le chien, il n'est pas dans sa shape qu'il devrait être. C'est fait qu'au moins d'être capable de voir tout de suite les trucs aller, des fois, c'est plus facile. Puis, bon, tu sais, là, on parle de sport, niveau d'énergie. On parle aussi, tu sais, au niveau, canyon randonnée, donc une randonnée à toutes les semaines par rapport à aller faire de la montagne, des choses comme ça. T'as-tu comme une règle non écrite qui dit un peu comment doser cette nourriture-là, quoi donner, tu sais, où s'en aller? Là? Qu'est-ce qu'on fait avec un chien qui fait du IGP versus un chien qui va faire du duck diving, par exemple? Est-ce que tu as des lignes de conduite, là, un peu des nutriments, où est-ce qu'on devrait s'en aller?
C'est sûr qu'on peut être vraiment, on peut pousser beaucoup la chose, comme on peut garder ça en simplicité. Donc, ça dépend aussi si, mettons, le duck diving, la saison de duck diving, c'est l'été, ça se peut qu'on n'ait pas la même nutrition l'été puis l'hiver, parce que l'hiver, c'est la saison morte. Même chose avec les sports de traction hivernaux, bien, souvent l'été, les chiens, ils vont avoir un entraînement quand même, et ça va être beaucoup moins intensif. Fait qu'on peut jouer entre des nourritures adaptées aux chiens adultes, puis adapter cette nourriture-là aux chiens sportifs. Est-ce que j'en emmène plus tard? Parce que les nourritures, chiens sportifs, performance et compagnie, c'est pas une appellation qui est contrôlée. Fait que je vais parler un peu de c'est quoi qu'on recherche en termes de nutrition pour le chien sportif, mais on ne peut pas se fier à une nourriture qui dit c'est une nourriture de performance. Parce que contrairement, mettons, à nourriture chiot versus adulte, ça, c'est une appellation contrôlée. Ça va n'importe quoi dans la nourriture qui est chiot. Mais la nourriture performance, souvent, il va avoir un peu plus d'énergie, mettons, mais ça peut être vraiment surprenant. Il n'y a pas personne qui check ça. Là.
Fait que c'est pour ça que... C'est un peu comme le holistique et le naturel, le pouce. C'est une appellation qui n'est pas contrôlée. Amélie, moi, j'ai une question, juste parce qu'on vient d'en parler. Quelle est la différence entre une nourriture chiot et une nourriture adulte?
OK. Dans le fond, c'est la teneur en certains, nutriments, macro et micronutriments. Donc, protéines, gras, vitamines, minéraux, c'est pas les mêmes besoins pour le chiot que pour le chien adulte. C'est que le chiot, on a besoin de plus parce qu'il est en croissance. Donc, la nourriture chiot va être plus concentrée. Moi, ce que j'aime à dire, mais que plein du monde ne serait pas d'accord avec moi, c'est bien correct, c'est que la nourriture pour adulte est juste moins nutritive. Dans le fond, c'est que le chien adulte, surtout le chien sédentaire qu'on connaît aujourd'hui, il va engraisser facilement sur une nourriture chaude parce qu'il ne va même pas marcher une heure par jour. Mm. Donc, la nourriture pour adultes est un peu moins nutritive. Elle va être un petit peu plus faible en gras, en protéines. Les ratios comme calcium, phosphore peuvent être un peu moins respectés parce que c'est moins grave. Et le chien n'est pas en croissance, donc ce n'est pas la fin du monde. Je vais en parler justement par rapport aux chiens sportifs. C'est que les besoins en nutriments vont beaucoup plus ressembler aux besoins du chiot qu'aux besoins du chien adulte. Donc, lorsqu'on veut magasiner une nourriture qui est déjà toute faite, qu'on ne veut pas trop se casser la tête, bien, d'y aller pour une nourriture chiot ou une nourriture tout stade de vie va plus correspondre aux besoins du chien sportif que d'y aller vers une nourriture adulte maintenance. Parce que ça, c'est vraiment pour le chien de monsieur, madame, tout le monde qui va marcher pas souvent, puis pas trop, puis qui est bien heureux là-dedans. Puis lui, on veut pas qu'il devienne obèse, c'est correct, là. Mais c'est plus ou moins adapté pour le chien sportif.
Mm-hmm. Puis, okay, je vais laisser le sujet là-dedans, sinon on pourrait partir vraiment longtemps.
On y retournera à la fin, si on a dit.
Oui, c'est ça, exact. On y retournera parce qu'il y a quand même des mythes qui liens avec ça. Moi, j'ai du berger allemand, fait que nourriture chiot pendant longtemps, là, ça peut créer d'autres problèmes aussi, fait qu'il faut doser aussi au niveau de ce qu'on s'en va. Mais là, on en a parlé un petit peu. Quoi regarder comme ingrédient? Si, mettons, je dis, OK, regarde, moi, je veux choisir une nourriture. Je veux calculer exactement ce que mon chien a besoin. Comment choisir la bonne nourriture côté ingrédient? Là, qu'est-ce qui serait adéquat? Là?
C'est sûr que c'est ça. C'est une question qu'on peut parler pendant des heures et des heures. C'est sûr qu'en se concentrant juste sur les macronutriments, donc protéines, gras, glucides, le chien sportif va avoir un plus grand besoin en énergie et un plus grand besoin en acides aminés essentiels pour le fonctionnement de ses muscles, pour le fonctionnement de sa concentration, pour son métabolisme en général. Donc, la priorité, c'est une protéine de qualité. Parce que la protéine, il y a juste de la protéine qui peut faire de la protéine. Ça a l'air bizarre d'une même, mais c'est que des glucides, ça peut faire du gras, ça peut faire de l'énergie, mais du gras et du glucide, ça ne peut pas faire des acides aminés. Donc, des acides aminés peuvent faire du gras, mais pas l'inverse. Mm-hmm. Donc, c'est important, c'est le critère numéro un, il faut que ça soit des acides aminés de qualité. Puis je dis acides aminés parce que protéines, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout la protéine brute qu'on voit sur le sac de nourriture, ça, ils n'analysent même pas la teneur en protéines, ils analysent la teneur en azote. Parce que chaque acide aminé va avoir une molécule d'azote. Donc, en mesurant l'azote, tu as une bonne estimation de la teneur en protéines. Mais ça ne mesure pas la qualité de la protéine, ça ne distingue pas acides aminés essentiels versus non essentiels. Puis ça ne distingue pas non plus si la protéine a été maganée au niveau de la cuisson, de la transformation et tout ça. L'azote va rester de l'azote. Donc, c'est un indice. On va aller chercher, il y a des minimums à aller chercher pour le chien sportif. Mais le plus important, c'est quoi qui est la composition de cette protéine-là. Donc, il faut faire attention, comme je le disais, à la cuisson. Fait que c'est lorsqu'on donne la nourriture crue, c'est pas un problème. Mais quand on donne la nourriture en canne ou croquette, c'est important de contacter la compagnie et demander c'est quoi le processus de cuisson. Des fois, c'est une, deux, des fois, c'est six cuissons. Ça dépend. Mm-hmm. Des fois, c'est 100, 120 degrés. Des fois, c'est 700 degrés. Donc ça va vraiment aller jouer au niveau la protéine est encore de la protéine quand mon chien le mange ou c'est juste de l'azote qui va essayer de se débarrasser. Puis, au niveau des acides aminés essentiels, on a des sources de protéines complètes et incomplètes. Donc, source de protéines complètes, ça veut dire qu'il va avoir tous les acides aminés essentiels pour le chien. Source de protéines incomplètes, ça veut dire qu'il n'y aura pas tous les acides aminés, il va falloir les combiner. La viande, c'est la seule source d'acides aminés complète. Donc, quand on donne de la viande, peu importe la sorte de viande, tant qu'elle est assez maigre, il va avoir tous les acides aminés essentiels dedans. Lorsqu'on va jouer dans le gluten qui vient du grain ou du pois, légumineux, soya et compagnie, là, il faut les mixer, les matcher. Même, il va falloir rajouter des acides aminés. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à la protéine brute quand c'est une nourriture qui n'a pas beaucoup de viande. Fait que les deux choses à demander, c'est quoi la température de cuisson et c'est quoi la proportion de la protéine qui provient de la viande.
Au niveau des acides aminés, c'est 22, hein, je crois, qui sont nécessaires pour un chien. Est-ce que le minimum? Je pense que c'est 22 acides aminés.
C'est 20 essentiels, si je ne me trompe pas. En fait, il existe 20 acides aminés, puis c'est 11 ou 13 essentiels. Là. Tu m'en parles?
OK, oui.
Je recheck que.
Mais même mon
de chiffres que j'apprends pas par cœur, mais oui.
Non, non, non. Mais c'est pour ça que mon sien était loin, puis je me disais, OK, acides aminés, c'est quand on regarde. Puis est-ce qu'il y a des formules de viande qu'ils ont plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des. T'sais, parce qu'on a eu beaucoup de modes dans le domaine quand même, le goberge qui a fait la une à un moment donné. D'autres moments, on est rendu dans un grillon. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut voir qu'il faut faire attention quand on a un type de chien, surtout un chien sportif qu'on sait qu'il va utiliser toute sa nourriture pour travailler, là?
Honnêtement, on peut rentrer dans le profil d'acide aminé des viandes parce que le chien sportif va favoriser, le chien en général, en fait, là, lorsqu'il fait du sport, va favoriser certains acides aminés pour certaines réactions métaboliques, si on veut, soit au niveau de l'utilisation de la protéine ou de la transformation en énergie. Puis, il y a des protéines qui vont avoir un meilleur profil. Vite de même, le bœuf, je me souviens, c'est lui qui avait un très, très bon profil. Le poisson, où il est intéressant, c'est que c'est une protéine qui est maigre. Donc, tu sais, je disais, avec le cru, des fois, on a moins ces problèmes-là, mais c'est pas vrai parce que quand on a un cru qui est très, très, très gras, c'est que la tonne, même si tu as tous tes acides aminés essentiels, la teneur en protéines va être diluée par le gras. Donc, au final, tu n'en auras pas assez dans la viande. Donc, c'est pas parce que c'est de la nourriture crue que qu'on est correct. Donc, c'est vraiment la goberge, c'est que c'est une viande qui est très maigre. Donc, il va avoir. Ça va être super intéressant au niveau des acides aminés. C'est une viande qui ne coûte pas trop cher non plus. Et je vais choisir de la goberge avant de choisir du poulet, mettons, en termes de profil en acides aminés. Mais là, entre toutes les sortes de viandes, moi, je ne suis pas du genre à recommander de choisir une affaire, de toute façon. C'est de choisir, si une nourriture à la goberge fonctionne bien, tant mieux, je ne donnerais pas juste du poisson. Je choisis aussi une nourriture au bœuf puis une nourriture au poulet. Puis moi, je suis d'école de pensée que plus il va y avoir de variété, mieux ça va être. Autant dans les croquettes que dans le cru que dans quoi que ce soit, parce que il n'y a aucun animal, aucun être vivant sur la Terre qui est fait pour manger la même affaire. Et je souhaite vraiment que cette nourriture-là, elle soit impeccablement formulée si on donne que ça pour toute la vie du chien. Donc, c'est d'y aller avec des sortes que le chien, ça va bien. On ne change pas à tous les deux jours pour le fun. On fait des essais et on prend ce qui va bien. Mais même au niveau de la viande, j'irai dans une variété.
Puis quand on parle de variété, parce que là, il y en a qui vont crier, mon chien, moi, il est sensible à l'estomac, il va avoir de la difficulté à changer de protéines, des choses comme ça. Il y a une partie que c'est une question d'habitude aussi, d'habituer le chiot ou le chien à pouvoir avoir plus différentes protéines aussi. Puis est-ce qu'il y a une portion aussi au niveau de la quantité, des difficultés croquettes crues versus, tu sais? On voit un peu
plein de choses. C'est ça, il y a plein de choses parce qu'il y a le gros volet génétique aussi. Ça se peut que le chien, génétiquement, n'ait pas un système digestif de course, mettons. On va dire ça comme ça. Si tu le foie, si tu les intestins, si tu son microbiome, si tu... ça peut être plein de choses. Puis, ça se travaille. Mais quand c'est génétique, des fois, il faut que tu fasses avec ce que tu as. Mais ça se travaille. Ça se nourrit, un microbiome, ça s'entretient. Un foie, ça s'entretient. Donc, varier, essayer les différentes cuissons de croquettes. Essayer différentes moutures de cru, différentes températures à laquelle on la sert, avec de l'eau dans les croquettes, sans de l'eau dans les croquettes, plein de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'essais-erreurs parce que le chien ne peut pas nous parler. La seule chose, c'est quand on essaye des choses, un changement alimentaire, c'est 10 jours. On ne peut pas espérer avoir un résultat concluant en dedans de ça, à moins que ça soit, on s'entend, diarrhée sanglante sur toutes les murs, on ne t'offre pas 10 jours. Là. Mais outre ces cas extrêmes-là,
Ouais.
Faut laisser le temps au chien s'adapter. Probiotiques, prébiotiques, toutes des choses qu'on peut intégrer. Là, on parle chien en général, en plus important pour le chien sportif. Tout ce qu'on dit pour le chien sportif s'applique au chien normal, entre guillemets, chien sédentaire, outre le besoin en calories. Parce que c'est une santé, la santé globale vient d'une bonne alimentation.
Tellement intéressant, là, je t'avoue que je pourrais sûrement finir ça jusqu'à midi.
Merci. Tant mieux.
On parle de pro et prébiotiques, là. Est-ce que tu as une compagnie, mais pas une compagnie, mais est-ce que tu as des préférés, par exemple, des choses que tu aimes donner en poudre, pas en poudre? Vas-tu faire un format plus naturel, yogourt, choses comme ça?
C'est sûr que moi, je suis très, très vendue nourriture fermentée. Là. C'est vraiment, ça commence ici en Amérique du Nord, c'est bien populaire en Europe. C'est que dans le fond, le fait de faire fermenter la nourriture, c'est que tu vas avoir à l'intérieur les prébiotiques, qui est la nourriture à bactéries. Tu vas avoir les probiotiques, qui sont les bactéries comme telles. Mais tu vas aussi avoir, nouveau terme, les postbiotiques. Donc, c'est les déchets des bactéries, mais qui sont en fait pas des déchets pour nous. Donc, tout ce qui est enzymes que les bactéries ont utilisées pour se faire leur nourriture à eux. Mais les bactéries aussi sont super bonnes pour synthétiser des vitamines et minéraux également. Donc, c'est vraiment ce volet-là vient de plus en plus, puis ça, tu le retrouves principalement dans la nourriture qui est fermentée. Donc, kéfir, lait de chèvre fermenté, on va plus vers le chèvre parce que la protéine de chèvre se digère plus facilement que la protéine de vache pour le chien, pour nous aussi également, mais surtout pour le chien. Mm-hmm. Légumes fermentés, même aux États-Unis, j'ai vu une compagnie qui font c'est du bouillon de poisson fermenté, ça doit sentir horrible, mais c'est extraordinaire parce qu'il y a tous les acides gras aussi à l'intérieur, fait que c'est vraiment comme un super cool supplément, mais moi, j'en ai pas trouvé à date là, au Québec, là, mais dès qu'il va en avoir, je vais en acheter.
Ça me sert d'aller au Canada avant d'aller au Québec, là, mais
oui, effectivement,
un peu comme tout ce qui est aux États-Unis, des fois, avoir accès au Québec, c'est tout bien compliqué, là.
Oui, c'est fait ça, surtout quand c'est de la nourriture qui n'est pas tout à fait cuite, là, fait que... Mais ouais, sinon, dans le fond, dans les poudres, en fait, c'est d'y aller avec... Il faut regarder la quantité de probiotiques qu'il y a dedans. Je ne connais pas par cœur, là, selon les familles de probiotiques, il y a certaines quantités minimum à avoir pour que il y en ait suffisamment qui se rendent aux intestins, parce que le nerf de la guerre, c'est toujours que ça passe à travers le pH de l'estomac. Des prébiotiques, c'est que ça va aider justement à soutenir ces bactéries-là jusqu'à ce qu'elles se rendent au lieu où elles vont se développer. Fait que toujours un si on y va en poudre, là, c'est qu'il faut qu'il y ait, je dirais, plusieurs sortes de probiotiques, la bonne quantité, les bonnes familles, et qu'il y ait un prébiotique d'intégré. Fait que des prébiotiques, là, c'est de la fibre, c'est la fibre soluble. Fait que l'inuline, il y en a. Chicory root, ça en est un, je ne sais pas c'est quoi en français. Marshmallow root aussi. Il y en a vraiment plusieurs, là, mais souvent, ça va être écrit. Là, le marketing est bon pour ça. Là. S'ils mettent des prébiotiques, ouais, ils vont les gréer. Fait que c'est ça, je dirais, le plus intéressant. Aussi, ce que j'ai relu dernièrement, parce que je ne suis pas super calée en comme produits naturels, c'est mon dada, vraiment comme la technicalité de la nutrition, mais contrairement à ce qu'on se fait dire, c'est que les probiotiques, souvent, c'est intéressant de les donner à part d'un repas, parce que quand on donne avec un repas, le système digestif est stimulé par l'arrivée des aliments. Donc, la sécrétion d'acide dans l'estomac, la sécrétion d'enzymes au duodénum, c'est stimulé par l'ingestion d'aliments. Donc, quand on a les prébiotiques, probiotiques là-dedans, ils sont plus maganés, mettons, parce que là, l'acide gastrique, les enzymes, ils les attendent avec la nourriture. Donc, de les donner avant un repas, quand le chien est un peu à jeun, si on veut, mettons, 2 heures après un repas, de ce que j'ai lu dans ma formation dernièrement, c'est que c'est ça, c'est qu'il y avait moins de décès de bactéries en route.
Mais c'est quand même important parce que combien il y a de gens qui vont mettre juste la poudre directement sur la nourriture, ouais, fait qu'on se retrouve à la mettre un peu pour rien.
Ben,
c'est ça, là, parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi
le... Mais tu mets les chances de ton bord. C'est ça. Tu mets les chances de ton bord en la donnant à part du repas. Là.
Super, ça. Effectivement, ça fait sens aussi avec toute la suite.
Oui, ouais. C'est logique. Là, c'est pas une explication que tu dis ça sort d'où. Non, ça a du bon sens.
Ben oui, puis souvent, en fait, c'est que quand on travaille avec la nutrition, je ne sais pas pour vous autres, mais nous, même dans le domaine du comportement, c'est que moi, je vais aller jouer beaucoup avec la nutrition côté humeur du chien. Fait que s'il y a de l'agressivité ou si le chien est saut d'humeur ou s'il y a des problèmes XLWET, exemple typique qu'on a, c'est que le chien est sur une nourriture qui est super très haute en calories, mais que le chien ne dépense aucune énergie, la frustration qui est créée par rapport à tout ça. Fait que le fait de pouvoir juste changer, tu sais, c'est des habitudes qu'on a avec nos chiens qui changent facilement et qui font toute la différence. Fait que pourquoi pas, tu sais, aller dans le bon
absolument
sens.
Absolument. Absolument. Puis on va en parler de ça parce que c'est important, je trouve, c'est les glucides. Les glucides, c'est vraiment quelque chose qu'on parle beaucoup, beaucoup en alimentation humaine, comment est-ce que c'est donc important de faire attention à notre consommation de glucides. Mais dans le chien, on n'en parle pas tant. Puis moi, au niveau du cru, ça n'a jamais été un big deal parce qu'on n'en a pas besoin. En fait, quand on regarde les guides nutritionnels, autant l'AFCO que le NRC pour les chiens, il n'y a pas de besoin minimum en glucides. Ils ne sont pas capables de créer une carence en glucides, c'est le chien. Le chien, pour vivre, n'a pas besoin d'apport en glucides. Parce que de par sa nature, il est capable de créer son propre glucose et son propre glycogène à partir de la protéine. Donc, il n'en a pas besoin. Est-ce que ça peut être bénéfique dans certaines occasions? Absolument. Puis ça, j'en parle en long et en large dans mon livre. Mais ce n'est pas un ingrédient essentiel. Puis dans le cru, on en a à peine lorsqu'il va avoir un peu de fruits et légumes de mélanger à tout ça. Mais dans les croquettes, on n'a pas le choix pour la structure de la croquette. Donc, pour avoir quelque chose de croustillant et qui se tient, ça en prend une quantité minimale. Puis comme je disais, c'est pas la fin du monde quand il y en a une petite quantité. C'est juste que des fois, ça va très, très loin. Puis tu me parles de comportement, la fermentabilité, c'est ça le mot, ça, je l'ai juste en anglais, mais ça joue un énorme rôle parce que trop de glucides qui ont une haute teneur, un haut indice de fermentation, exemple le blé ou l'orge qui ont un haut indice de fermentation, ça va créer des ballonnements, ça va créer une surpopulation de bactéries au mauvais endroit dans les intestins. Puis c'est ça aussi qui peut créer des problèmes de reflux, de bloating puis de revirement d'estomac. Tout ce gaz-là qui s'accumule de plus en plus haut puis qui ne permet pas d'être évacué au niveau des selles puis des pets, etc. Il faut que ça aille par en haut puis c'est ça que ça fait ou ça respire. Puis ça, ça joue tellement au niveau du comportement parce que faire du sport avec des crampes, là, personne n'aime ça.
Non.
Et le chien non plus. Il ne peut pas nous le dire que c'est ça qui le fatigue, tu sais.
Exact.
Puis au niveau du comportement aussi, c'est la montagne russe de la glycémie que j'aime appeler. C'est quand tu viens de manger, tu as arrêté au dépanneur en mettant du gaz, puis là, tu as vu le petit sac de bonbons, tu t'es dit, oh, ah ouais, ça je va être c'est ça. Et ça, ça crée un pic de glucose sanguin lorsque tu l'absorbes. Le foie va dire au pancréas, s'il vous plaît, peux-tu gérer ça? Le pancréas va faire de l'insuline, on va stocker le glucose. Plus le pic de glucose sanguin est grand, plus la réponse va être grande. Et là, il peut s'ensuivre un trop gros stockage du glucose. Donc là, on va avoir on passe d'hyperglycémie à hypoglycémie. C'est pour ça que quand on a une rage de sucre, une rage de bonbons, on ne file pas tout le temps bien tout de suite après. C'est comme ces montagnes russes-là. Il y a des croquettes qui vont avoir jusqu'à 60 à 70 % de glucides et la plupart du temps, c'est sous forme d'amidon et peu de fibres. Donc, tout cet amidon-là, une fois qu'elle va être fermentée, elle va être absorbée dans le système sanguin sous forme de glucose. Donc, ça fait exactement ce pic d'hyperglycémie-là. Certains chiens vont avoir une réponse plus forte que d'autres. Il va s'en suivre une hypoglycémie jusqu'à ce que le foie ramène ça à la normale. Ça prend un différent nombre de temps, dépendamment des chiens. Puis ça aussi, c'est extrêmement frustrant parce que tu ne te sens tellement pas bien en hyper ni en hypoglycémie. Fait que ça aussi, ça fait pour le chien qui ne fait rien, ça ne peut même pas paraître. Pour le chien duquel on exige des efforts physiques et mentaux, ça peut faire une énorme différence. Donc, même un chien qui ne fait pas de sport, mais qui est en consultation de comportement, qu'on lui demande de se concentrer puis de se forcer, ça fait une énorme différence.
Exact. Puis, il y a le niveau aussi de focus qu'on va exiger, par exemple, dans un cours de groupe que le chien, n'a jamais fait de focus. Puis après ça, il arrive dans une situation comme ça, effectivement, ça devient vraiment compliqué d'être en mesure de
pouvoir le travailler. Avec des crampes puis des chaleurs, puis après ça, tu vois des points noirs. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas...
Non, non.
Même pour nous, ça, on peut pas... On s'exige pas ça de nous, c'est triste d'exiger ça de nos chiens.
Mais souvent, en fait, c'est qu'on ne le sait pas. Fait que, tu sais, on n'a aucune idée de ce qui se passe toujours dans la tête du chien, puis même dans le corps du chien. Fait qu'on est toujours en train de faire des essais et des erreurs. Puis c'est le résultat du comportement qui font la différence. Moi, je vais jouer beaucoup au niveau de la nutrition, surtout pour de la destruction des objets dans la maison, destruction des. Tu sais, puis avaler, là, c'est le picot, là, qu'on voit tout le temps. Puis beaucoup dans l'agression quand le chien, il est beaucoup dans les sauts d'humeur up and down, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Puis il n'y a pas d'éléments déclencheurs. Fait que c'est vraiment une agressivité. Là, on va aller jouer un petit peu à ce niveau-là, mais souvent, c'est comme too much nourriture ou bien X alouette. Des fois, c'est juste changer de compagnie. Ça fait toute la différence.
Mais c'est que des fois, ça peut être juste dans telle compagnie, il y a tel agent de conservation, il y a telle vitamine minéraux ajoutée. Puis quand c'est absorbé dans le système sanguin, c'est vu comme une toxine ou par le temps que le foie le détecte et fasse ouais, on sort ça de là, ça peut se rendre au cerveau, ça peut faire une toxine. Ouais. C'est pour ça que des fois, oui, juste changer de compagnie, ça peut faire une différence. Là. C'est sûr, encore une fois, ça, je le vois moins dans le cru parce qu'il n'y en a pas tellement d'agents de conservation. Il n'y en a pas. La nourriture est congelée, mais quand une nourriture est tablette pendant hyper longtemps, des fois, juste de tomber de croquette à canne, la canne, souvent, va avoir moins d'agents de conservation parce que juste par le fait qu'elle est cannée, elle va être beaucoup plus stable, température pièce. Fait que des fois, quand on se demande si c'est au niveau des agents de conservation et tout ça, bien, de faire des tests avec des nourritures qui en contiennent moins, ça peut être une réponse à la question.
Puis, ça amène aussi, j'imagine, au niveau des allergies. Là. Il y a aussi tout le volet allergène. Là. Les dessous de pattes, les dessous de pattes qui sont rouges, le tour des babines qui deviennent rouges, les yeux qui coulent à outrance. C'est des choses qu'on peut voir là, qui démontrent quand même... une problématique là, au niveau du chien. Là.
C'est ça. Quelque chose dans la nourriture qui ne fonctionne pas pour ce chien-là.
Exact. Puis, tu sais,
quand on parle du chien. Oui, on s'en va à la même place.
Je pense qu'on va à la même place. Vas-y, Julie.
Parce que quand on parle du chien sédentaire, mettons du chien de la maison, c'est qu'au pire, il se gratte et c'est plate pour lui. T'sais, c'est pas le fun. Mais quand on demande à un chien de faire un effort sportif et qu'on vise des performances vraiment élevées, c'est que le corps, il est déjà occupé à faire d'autres choses. Il est déjà occupé à gérer ces allergènes-là. Il est déjà occupé à essayer de lutter contre ces choses-là qu'il y a dans le système sanguin qui ne devraient pas être là. Toute l'énergie qui est mise à faire ça n'est pas mise à la régénérescence musculaire, n'est pas mise à la concentration et compagnie. Mmh. Donc, c'est encore plus important.
Mais la meilleure image, c'est si nous, on arriverait pour aller faire quelque chose puis qu'on serait juste au prix avec une problématique, un rhume ou quelque chose, la seule chose que tu as ta concentration, c'est juste
le nez qui coule.
Le nez qui coule! J'ai marché sur un mouchoir, Seigneur!
Puis pour en revenir aux nutriments, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut regarder sur des sacs de croquettes. Ils ont toutes des analyses garanties. La protéine brute, ça ne dit pas grand-chose, mais une fois que tu as, mettons, tu as vérifié que ça venait de la viande, la cuisson, tout ça, il y a des targets qu'on peut avoir, il y a des points qu'on peut aller chercher. Mettons, on veut que X quantité de l'énergie provienne du gras, X quantité de l'énergie provienne de la protéine. J'en reviens au glucide parce que le glucide, c'est le seul qui est comme un maximum. C'est que dans le peu d'études qui a été faites chez les chiens sportifs, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y a une baisse de la capacité de transport d'oxygène quand on dépasse 38 % de glucides. Fait que ça aussi, ça va jouer lorsqu'on va faire des sports d'endurance, du sprint et tout ça. Puis, il faut vraiment aussi garder en tête que le chien, ce n'est pas un humain. Nos types de muscles, la manière dont on utilise l'énergie, ce n'est pas la même chose que le chien. Le chien, c'est un animal d'endurance. Le chien est vraiment très différent du chat aussi par rapport à ça. Le chien n'a pas de muscles strictement anaérobiques. Il va avoir des muscles aérobiques ou des muscles qui font les deux. Et lorsqu'il fait un effort sportif, au bout de quelques secondes, 7 à 10 secondes, même s'il reste du glycogène disponible, glycogène, c'est l'énergie, ça vient du glucose, c'est l'énergie favorite des muscles anaérobiques. Au bout de quelques secondes, même s'il en reste chez le chien, il va se mettre à utiliser des acides gras, donc ses réserves de gras. Chez l'humain, c'est pas ça. Chez l'humain, plus on peut favoriser notre réserve de glycogène, bien, plus on va avoir de l'endurance, plus on va pouvoir rester sur cette source anaérobique-là d'énergie. Mais le chien, c'est pas ça. Fait que ça rend, encore une fois, le glucose un peu inutile. Il faut qu'il y en ait un peu de réserve de glycogène. Il peut la faire à partir de la protéine, il peut la faire à partir du glucide de l'alimentation, mais c'est pas ça qu'il veut utiliser. Si tu lui donnes l'opportunité, il va aller chercher ses réserves de gras pour fonctionner. Donc, c'est vraiment... Souvent, il y a des nourritures chez les sportifs qui vont être faites un peu comme les nourritures pour humains. Mettons, c'est un peu les notions humaines. Mm-hmm. Donc, ça prend plus de glucides, ça prend de l'énergie qui provient des glucides, c'est bon pour... Mais même s'il y a accès à du glucose, c'est pas ça qui va vouloir utiliser le chien. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette différence-là. C'est un animal à part de l'humain, du chat, du cheval, de tous les autres animaux avec lesquels on peut faire du sport. Ben, peut-être pas avec les chats, mais tu comprends où je veux en venir.
Oui, je comprends exactement. Puis ça l'amène aussi à un point, parce que en fait, j'ai deux questions. La première, c'est quand on parle d'un muscle, c'est anaérobique.
Anaérobique, ça veut dire qu'il n'utilise pas l'oxygène pour faire son énergie.
OK, super. Puis, ma deuxième question, c'est que quand on parle à ce moment-là du sang-grain, tu sais, la fameuse polémique qu'on a eue au niveau du sang-grain, ça fait sens à ce moment-là de se diriger plus vers la nourriture. Bien, encore là, faire attention parce qu'on peut aller chercher, en tout cas, des carbohydrates qui sont ailleurs, là, mais...
C'est ça, c'est vraiment complexe, mais souvent, ouais. Ce qui est intéressant avec les légumineuses, pois et compagnie, c'est que leur indice glycémique est plus faible parce qu'ils ont plus de fibres. Donc, ils vont amener moins de glucides total dans l'alimentation, mais où le danger, c'est qu'ils vont booster la protéine. Fait que quand tu mets du poids, c'est que oui, ta nourriture va être plus faible en glucides, puis elle va être plus riche en protéines brutes. Mais ton chien, il n'utilisera pas cette protéine-là. Donc, il y a moins de glucides, OK, fair, c'est pas pire. Il y a plus de fibres, OK, le fibre aide à diminuer l'absorption du glucose, mais la protéine que tu apportes n'est pas utile. Alors que quand tu es dans des nourritures avec du grain, c'est que là, le grain va amener un petit peu de protéines. Si c'est du grain entier aussi, si c'est du gluten, va en amener. Si c'est juste de l'amidon de maïs, mettons, ou amidon de blé, il n'amènera pas de protéines. Ça, c'est juste des glucides. Mais il n'amènera jamais autant que le poids. Donc, c'est obligé de compenser soit en mettant plus de viande ou en rajoutant des acides aminés dans la nourriture directement. Le débat grain sans grain vient du fait que le profil en acides aminés n'est pas le même. entre les grains et les légumineuses ou les oléagineux comme soya et compagnie. Mm-hmm. Ni un ni l'autre est complet. Ni un ni l'autre amène tout ce qu'il faut. C'est juste qu'ils n'ont pas le même profil. Puis à comparer les deux, le grain est meilleur. Ish. Pour certains ouais. acides aminés, mettons. On va dire ça, j'essaie de simplifier le plus possible. Mais les deux sont limite complémentaires. Les deux limites fonctionnent bien ensemble. Là où il y a un danger, c'est lorsqu'on omet de la viande pour se fier qu'à ça pour la protéine. C'est là qu'on va créer des déficiences en protéines. Et là, on peut embarquer aussi dans tout le volet, qu'est-ce que ça l'amène d'autre, le grain puis les légumineuses. Parce que dans les légumineuses, il y a des éléments antinutritionnels qui sont techniquement détruits par la cuisson, mais pas tout le temps.
Ouais.
Et ça, ça va nuire à l'absorption de certains acides aminés. Fait que tu sais, c'est comme, c'est quand on va jouer avec d'autres choses que de la viande pour nos chiens, là, on se met à avoir plusieurs choses à penser, là, plusieurs aspects à garder en considération pour être sûr de ne pas créer un problème. C'est ce qui semble arriver un peu avec ce débat-là de grain sans grain, c'est que là, on est peut-être allé dans un extrême d'un côté. Mm-hmm. On a vraiment profité de certains, de certains aliments. Et là, ça a peut-être créé des problèmes.
Puis encore là, il y a une question aussi génétique au travers de tout ça, là, selon la race du chien, selon...
Il y a, 1000%.
On fait une évaluation face à une situation, là, que ce soit on lève le flag sur une situation X à l'ouette, pour toujours évaluer la race, parce que si c'est des connaissances, peut-être qu'elles ne sont pas vraies non plus, mais... selon la race de chiens qu'on a, il y a des chiens génétiquement qui ont modifié leur façon d'absorber des nutriments parce que par la survie. Fait que c'est sûr qu'au fur et à mesure, si par exemple on a fait notre évaluation face à des huskies, ben je te confirme que la nutrition sera vraiment pas la même que mon chihuahua dans la
maison. Exactement.
L'absorption n'est pas pantoute la même chose. Fait qu'il faut le considérer aussi. Fait que sans tomber dans les extrêmes, là, c'est juste de pouvoir être en mesure de comprendre que tu as un chien, un individu devant toi avec une génétique que tu dois t'adapter, puis après ça, t'adapter à ce que tu as envie de faire avec lui aussi.
C'est ça. Au travers pour ça que les nourritures complètes, c'est pas vrai ça. Ça, ouais. Ça existe pas. C'est complet pour selon un guide et pour un chien moyen, d'une race moyenne avec une activité mm-hmm. moyenne. Après ça, comme tu dis, il y a tout le reste. La race, la génétique de l'individu, tout ça. C'est pas parce que la nourriture est complète pour ton chien, c'est lui qui va te dire si elle est complète ou pas, puis il faut que tu t'adaptes à ce que lui te dit, puis pas au papier qui te dit que c'est complet.
Puis c'est un peu la loi du moindre effort, hein? Tu sais, au niveau de l'industrialisation puis la commercialisation de la nutrition, c'est un peu pour la loi du moindre effort. On veut pas commencer à cuisiner pour nos chiens, puis en même temps, à cuisiner, ben, faut s'assurer qu'on donne les bons nutriments. À l'inverse,
c'est ça.
Ça devient compliqué, là. Ça te prend quand même une formation de base pour être capable de bien faire les choses. Fait que ça aussi, ça vient d'emblée dans le on veut la facilité ou moi qui voyage avec mes chiens aux États-Unis, le cru, tu sais, c'est comme pas fonctionnel. je fais l'épicerie pour le chien de l'autre côté, tu sais, ça fonctionne juste pas. Puis la conservation de tout ça aussi. Fait qu'il faut prendre en compte le mode de vie qu'on a avec notre chien. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si on va avec la croquette, par exemple, ce qui est majoritairement ce que les gens vont offrir à leur chien, là, pour ceux, le chien sportif a plus de cru, mais majoritairement, les gens qui commencent dans le domaine sont beaucoup plus sur la croquette. En partant avec un probiotique qui est donné 2 heures après ou avant sa portion de nourriture, comme on a mentionné, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter pour s'assurer, exemple, de complimenter ou de pouvoir booster un peu si on veut maintenir cette recette-là pour le moment, parce qu'on n'est pas sûr là, si on a envie de s'embarquer ou pas, tu sais, dans
tout de la bouffe.
Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est correct, chaque réalité est différente, puis comme tu dis, c'est difficile, surtout si on a un chien qu'on ne peut pas trop changer sa nourriture, de dire, bon, ben quand je m'entraîne ici, c'est du cru, mais quand je vais aux États, c'est des croquettes, mais après ça, quand je suis sur la route, c'est un peu des deux. Après ça, tu sais, c'est pas... Il existe du bon cru aux États-Unis, mais pas nécessairement qui le chien va aimer ou qui va profiter. Puis quand tu vas pour une compétition, tu n'as pas le goût de faire un essai alimentaire. Tu as le goût que ça soit safe de ce côté-là, que tu n'as pas besoin de t'inquiéter avec ça.
Tu apportes même ton eau pour être sûr qu'il y a rien.
C'est ça. Exactement. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Mm-hmm. C'est sûr que moi, dans mon livre puis dans le séminaire que je fais au mois de mars, j'ai un gros chapitre qui s'appelle « Optimisation de la diète commerciale ». Parce que c'est super pratique, effectivement, des croquettes, puis ça a été fait pour ça. Mais il y a des choses que tu ne peux pas t'en sortir avec les croquettes. C'est sûr que la meilleure croquette va être cuite à haute température. Il va avoir beaucoup de glucides dedans. Puis, il va avoir des agents de conservation. Puis, parce que c'est ce qui fait qu'elle est pratique. C'est à cause de comment est-ce qu'elle est. Ceci étant dit, ça ne prend pas grand-chose pour optimiser une diète à base de croquettes. Il y a une chaire de recherche en Finlande. Je ne peux pas la nommer parce que c'est en finlandais puis je ne sais pas partout comment le dire.
Le nom est
en H-E-I. C'est ce que je dis. Donc, je pense qu'ils ont fait un nom anglais. C'était Doug Risk. Je pense qu'il l'appelait avec un K. En tout cas, bizarre. Les autres, ils font beaucoup de recherches justement pour comparer la nourriture fraîche versus la nourriture transformée. Ils vont tester avec différentes maladies, mais aussi juste faire des mesures au niveau métabolique pour savoir est-ce que ça a un impact de mettre de la nourriture fraîche dans le bol de croquettes. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que nous, c'est ça qu'on se fait dire. Nous, on se fait dire « mange peu transformé, mange peu de glucides, évite les agents de conservation. » On se fait dire ça tout le temps. Mm-hmm. Mais c'est pas ça qu'on fait avec nos chiens. Mais eux, ça a un impact, mettons, s'ils mangent que ça tout le temps.
Exact.
Ce qu'ils ont vu, c'est qu'en ajoutant juste 20%, donc un cinquième, c'est pas beaucoup, de la diète de ton chien en termes d'aliments frais. Et là, ça peut être des bleuets, ça peut être des épinards. C'est pas obligé d'être de la viande.
Mm-hmm.
Il y a une diminution marquée de certains marqueurs métaboliques qui ont été voir, qui sont liés principalement à l'inflammation. Donc, des choses que tu mesures, on le fait avec nous, on le fait avec les chiens, avec les vaches, les chevaux, on peut mesurer l'inflammation dans le corps, s'il y a un foyer inflammatoire ou s'il y a de l'inflammation. Mm-hmm. Et à 20 % il y a une diminution marquée. C'est là qu'on peut plus t'augmenter, mieux c'est, mais il y a une diminution marquée. Donc, de rajouter un œuf, une mm-hmm. poignée de bleuets, une petite sardine, ça fait une énorme différence pour le chien. Puis dans mon livre, j'ai aussi un gros chapitre sur le foie, puis l'importance du foie, puis comment est-ce qu'on mm-hmm. néglige le foie. Et le nerf de la guerre, il est là. C'est que lui, il va aller chercher des choses dans ces aliments-là qui vont lui permettre de gérer ce qu'on aime moins dans les croquettes. C'est que ça va lui donner les outils, mais je dis ça très grossièrement, pour gérer les mauvais côtés des croquettes. Puis c'est aussi simple. L'œuf, tu peux le cuire si ça t'angoisse de le donner cru. Tu sais, c'est pas grave. Ça peut être, comme je disais, des bleuets, ça peut être... Il y a des aliments mieux que d'autres. Il y en a qui vont faire genre des thés aux champignons, des trucs comme ça. Là. C'est vraiment fancy, mais pas obligé d'aller. Oui. Mais il y a les extrêmes dans tout. Hein. Bref, juste faire ça, ça va faire une énorme différence.
Pour ceux qui ont envie de donner une petite dose de temps en temps à leur chien, la fameuse « nous, on l'entend tout le temps ». Puis moi, je suis comme la pire exemple de tout ça. Je suis un entraîneur de chien qui donne pas le bouffe de table. Je suis comme...
Ben, c'est que la bouffe de table,
toxique, là.
C'est ça, c'est pas mauvais. Par contre, mettons, moi, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de sonner chez moi. Je suis occupée. Une toast, c'est des glucides. Fait que de mettre une toast sur des croquettes, ça apporte pas grand-chose. Est-ce que c'est grave de mettre une toast au beurre de peanut de temps en temps? Vraiment pas. Est-ce qu'à tous les matins, ton chien y a une toast au beurre de peanut?
Oui, ça, c'est d'autres choses.
Là, c'est un autre... Mais d'abord, on diminue sa quantité de croquettes, tu sais. Mais la bouffe de table, ça a souvent eu une mauvaise réputation au niveau comportemental, parce qu'après ça, ton chien, il vient te voir. Puis il
ouais.
Ou parce que c'est pas de la bonne bouffe. Si tu donnes ton restant d'os d'aile de poulet, c'est pas bon. Cuit, c'est pas bon. Mm-hmm. Cru, on en reparle, mais cuit, on fait pas ça. Et si tu donnes un bout de saucisse hot dog, il y en a beaucoup qui entraînent avec ça. Moi-même, je suis guilty parce que mon chien, dans le temps, c'était la seule chose qui le motivait versus les autres chiens. Pas de temps en temps, c'est pas grave, mais c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour eux, là. C'est sûr.
Exact. Là, le taux de sel puis tout le reste. Là.
C'est ça. Mais si tu coupes des brocolis, ton pied de brocoli, c'est là qu'il y a la plus haute concentration à un antioxydant dont je ne me souviens pas le nom, mais qui est extraordinaire et qu'on retrouve juste dans le pied de brocoli. Donne-les à ton chien, c'est pas grave, cru, ça se peut que ça ressorte identique, mais tu peux le faire cuire avec les tiens puis le rajouter dans son bol. Ça, c'est extraordinaire. Les antioxydants, j'ai un chapitre aussi là-dedans dans mon livre, c'est extraordinaire pour le chien sportif. Là. Donc, quand on cuisine, quand on se fait de la bouffe, c'est pas compliqué. Certains déchets pour nous peuvent être super intéressants pour les chiens. Les petites queues de champignons, même chose, extraordinaire pour eux autres.
Puis honnêtement, au niveau comportemental, c'est vraiment bien de pouvoir collaborer avec son chien puis de pouvoir donner un peu plus à ton chien qui est tout le temps c'est un peu sous l'emprise de frustration parce qu'il n'obtient jamais rien. Fait que c'est toujours tout est à toi, puis rien est à lui. Puis après ça, tu arrives pour jouer avec ta balle, puis lui aussi, tout est à lui.
C'est
fait
ça,
que des fois d'aller, des fois de collaborer, ouais, c'est ça, puis de partager certaines choses, ça fait vraiment renforcer ta relation avec ton chien. Fait que c'est que bénéfique de le faire, tout en étant conscient de faire attention à quel article qui est toxique pour ton chien, c'est toujours à prendre en compte. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont banales, qui font toute la différence. Puis de ne pas nécessairement donner au fur et à mesure qu'on fait à manger. C'est de
Mais
prévoir
non,
un
c'est
moment
ça.
X.
Tu le mets de côté, puis au moment du repas, tu le mets dans son bol, puis.
C'est ça, exact. Puis lui, il est bien content. Puis s'il y en a qui vont aimer plus des choses que d'autres, puis on va pouvoir varier au travers de tout ça, là.
Yogourt nature aussi, c'est un excellent ajout. Œuf, bleuet, yogourt nature, sardines. Je dirais si j'avais un top 4 à faire, c'est ça.
C'est pas mal mon top 4 à mon aussi que je donne.
Parfait.
Ça ressemble pas mal. Dans la simplicité, puis les œufs, moi, je les donne complets. Là. C'est avec l'œuf,
oui.
Tout le poton.
Ce qu'il faut faire attention avec la coquille d'un œuf blanc, c'est qu'il a été blanchi. Donc, ça serait de le laver avant.
Avant.
Mais sinon, si tu vas dans les œufs bio, eux autres, ils n'ont pas, si je me souviens, j'essaie de me rappeler mes cours de bio, ils ne sont pas blanchis avec des javelisants. C'est juste lavé. Ça fait partie de comme leur norme, là. Fait que si tu veux donner la coquille, œufs bio, ça va. Œufs blancs, il faut faire attention parce qu'il peut avoir été javelisé, mettons.
Blanchi, là, à ce moment-là. De toute façon, j'en ai un sur les toutes quatre qui mangent la coquille.
Les autres, mais si on enlève la coquille, on va être fancy. Il faut enlever la petite membrane dedans parce que ça, c'est du collagène extraordinaire. Donc, on enlève la membrane et on le met sur l'œuf.
Mais, puis en plus, c'est le fun parce que c'est des articles de tous les jours. T'sais, le but, c'est de simplifier. C'est pas obligé d'être compliqué de bien nourrir son chien. Tu n'as pas besoin d'être dans la complexité. Puis dans
on est capable de nourrir des enfants et de les amener à un âge adulte. Honnêtement, les chiens, on devrait être capable aussi avec certaines notions, comme tu disais tantôt.
Bien, tout est dans l'éducation, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la nutrition. Puis moi, je trouve ça le fun que tu aies pris le temps aujourd'hui de justement pouvoir en puis ouvertement, là, sans avoir la peur. C'est moins pire maintenant, mais sans avoir la peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas dire.
C'est ce que je dis, c'est on peut le trouver sur papier dans le NRC. C'est rien d'inventé. C'est des notions auxquelles c'est public. Tout le monde a accès à tout ça. C'est des recherches publiques, sont publiées sur des moteurs de recherche. C'est juste de prendre le temps de le lire, puis moi, je peux le prendre le temps. Fait que,
exact. Puis tu le partages après avec nous autres, puis ça, c'est encore mieux. au niveau des chiens sportifs, tu sais, on a parlé un petit peu tantôt, il y a tout le marketing qui vient avec tout ça. Là. C'est nouveau, les sports n'ont jamais été aussi populaires que, mettons, les 5 dernières années, je dirais. Là. Avant qu'on faisait un sport avec un chien, tu étais un crinqué et un passionné. Maintenant, c'est un peu.
On l'est encore, mais tout le monde est crinqué et passionné maintenant. On n'est plus ici.
Exact, mais je trouve qu'il y a plus un engouement par rapport à faire un travail avec son chien ou vouloir faire une activité. Peut-être qu'il y a plein d'effets psychologiques positifs de faire aussi ça avec son chien et de pouvoir pousser la machine, ce qui est très bien pour notre chien aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le marketing, mettons, des nourritures haute performance ou qu'on pourrait peut-être faire attention ou s'assurer de bien lire ou pour ne pas se faire avoir finalement? Là.
C'est ça, parce que comme je disais tantôt, c'est pas régulé. Tu peux écrire performance, puis il n'y a pas. De toute façon, au Canada, il n'y a pas grand régulation, mais mettons que la compagnie suit les lignes directrices de l'AFCO, il n'y a pas vraiment de régulation par rapport à ça. L'AFCO va réguler, bon, mais si tu écris poulet sur ton sac, il faut qu'il y ait un petit peu de poulet. Ils ne disent pas comment, mais il faut qu'il y en ait un peu. Si tu écris. Maintenant, je pense que le terme naturel est régulé, là, je ne suis pas assez sûre, il faudrait que je regarde, mais avec leur mise à jour, ça s'en vient, mais je n'ai pas rien trouvé, en tout cas, par rapport à nourriture sportive, haute performance et compagnie. Lorsqu'on va regarder les nourritures disponibles, ça va varier énormément. Comme je disais tantôt, pour le chien sportif, le besoin en calcium, sodium, magnésium, phosphore, vitamine B est pas mal plus élevé, puis va ressembler un peu plus aux chiots en termes de niveau qu'ils ont besoin. Parce que de par leur dépense énergétique, leur métabolisme a un plus haut besoin en ceux-là. Mais ça, c'est... C'est pas parce que la nourriture est écrite performance qu'il y en a plus. Là. Ils ne sont même pas obligés de l'écrire sur le label. C'est même pas obligé de fournir cette analyse-là. Donc, on ne peut pas se dire parce que c'est performance, il y a ce niveau-là en vitamines et minéraux. On va se le souhaiter parce que c'est pas tout du monde mal intentionné. Vraiment pas. Là. Il y en a
des
que
fois, c'est peut-être juste sans connaître. Là.
Exactement aussi. C'est pas. C'est vraiment juste de faire nos devoirs puis de les dire bon, mais pourquoi est-ce que je paye plus cher pour une nourriture haute performance? Non? Les analyses de nourriture que j'ai faites pour mon séminaire, il y en a une nourriture que, écoute, la quantité de glucides qu'il y a là-dedans, ça n'a aucun... J'en revenais pas, j'étais comme limite, sur le coup, je l'écris à la compagnie. Pourquoi? Je me suis dit, mal toutes les affaires. Mais, tu sais, ça quelqu'un qui donnerait ça à son chien tout le temps, c'est qu'il va vraiment avoir une baisse au niveau de la musculature, une augmentation au niveau de la réserve de gras, parce que Des glucides, ça devient du gras. Là. Le corps ne stocke pas des glucides, un petit peu de glycogène, mais c'est tout. C'est, ça va être du gras. Là. Fait que le chien va prendre du poids, il ne prendra pas de la masse musculaire, il va avoir autant, sinon plus, de montagnes russes glycémiques. C'est ça. Mais il va en avoir des très, très bonnes. Il y en a des nourritures sur le marché, performance, que tu vois réellement la différence. Tu vois que le pourcentage d'énergie qui provient du gras est adéquat. Le pourcentage de la protéine qui provient de la viande est adéquat. Glucides, on ne dépasse pas le 38 %, même il y en a à 25 %. Pour le niveau des croquettes, c'est intéressant. Au niveau du cru, comme je disais, c'est un peu plus facile. Il faut juste se méfier du gras, dans le fond. C'est qu'on ne veut pas, vite, là, on ne veut pas que le ratio protéines gras, on veut qu'il soit égal ou il y a plus de protéines. Tu ne veux pas qu'il y ait plus de gras que de protéines parce que là, ça dilue tout le reste des nutriments. Le gras, c'est bien, ça l'aide à la digestibilité de la diète, c'est une belle source d'énergie pour le chien, mais comme tout, trop c'est comme pas assez. Des fois, des nourritures sportives, ils vont avoir des d'huile de poisson un peu plus, des oméga-3 un peu plus. La seule affaire, c'est que c'est des acides gras qui sont super fragiles. Fait que dès que le sac est ouvert, là, au bout de 2 semaines, tes acides gras sont probablement tout oxydés, là, les oméga-3 en tout cas. Donc, oui, mais tu vas être toujours mieux d'ajouter comme du poisson frais ou une huile de poisson à part, mettons.
C'est mais... tellement la même chose avec la croquette, by the way. Là,
oui, non, c'est ça.
On en parle pas souvent, là, mais le sac de croquettes qu'on ouvre la première fois versus un mois plus tard, on n'est vraiment pas dans la même valeur nutritive. Là.
C'est ça. Puis juste où le sac est entreposé dans l'animalerie. C'est con, là, mais si vous rentrez dans l'animalerie et vous voyez des sacs entreposés au soleil, il n'y a plus de vitamine B dans d'une demi-heure. C'est sûr et certain. Fait que c'est des petits détails de comme c'est stable, là. C'est pas mal stable. C'est pas infaillible. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'après ça, de rajouter un petit peu d'œuf, là, on fait un petit boost de vitamine B.
Ben, puis ça devient encore plus important que oui, on se facilite la vie d'un côté, mais d'un autre côté, sans compromettre non plus tout le côté. Parce que l'oxydation, ça l'amène aussi à un autre niveau. Là. Il y a d'autres problèmes qui viennent avec ça aussi. Là,
exactement.
Au niveau de la santé du chien qu'il faut quand même prendre en compte. Là.
Absolument. C'est encore une fois, je ramène ça au foie. C'est le foie que ça va nuire. Puis le foie, c'est lui qui va tout gérer l'apport en énergie, la forme d'énergie aux muscles. Fait qu'il est vraiment le centre névralgique de la performance sportive. Mm-hmm. Donc, non, c'est ça. Absolument. Donc, il faut quand même se méfier. C'est pas parce que c'est une nourriture de performance qu'elle est nécessairement meilleure qu'une nourriture adulte de maintenance. Il y en a qui vont exagérer énormément sur le taux de glucides, puis ils vont dire « Oui, gars, elle est full calorique, c'est bon, ouais, mais il n'y a pas juste les calories non plus. » Il y en a qui sont très, très bonnes aussi. Puis encore une fois, moi, la variété, j'y crois. Là. Si telle formulation, c'est la même formulation toute la vie, pour toute la vie du chien, il n'y a pas un nutritionniste pour humain qui va recommander ça à un athlète. Là. Donc, c'est vraiment... Peut-être on sait que cette marque-là, ça va bien. On va peut-être jouer dans les différentes formulations de cette marque-là ou en choisir deux que ça va bien. Puis là, alterner, je pense que c'est vraiment le best. On va sauver bien des problèmes.
Il y a un autre côté aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chien a une capacité d'adaptation vraiment énorme, comme l'humain d'ailleurs, j'imagine. Puis ce que ça fait, c'est que le corps doit s'adapter aussi à une nutrition comme ça. Fait que le fait d'alterner, veut pas, ça doit aussi garder le corps actif, dans un sens, j'imagine, pour aller chercher les nutriments qui sont nécessaires et pas juste comme devenir un peu lâche. Là,
c'est ça, devenir comme un robot dans la digestion de ça, parce que c'est surtout au niveau du microbiome que ça va jouer un petit peu partout. Là, c'est complexe, le système digestif, mais c'est que le microbiome, tu veux une énorme variété de populations de micro-organismes. Puis c'est ce qui va lui permettre d'être résistant à si tu lui donnes ou bien si plutôt le chien mange quelque chose qu'il ne devrait pas manger, être capable de résister un peu à cette digestion-là ou être capable de comme gérer un peu ça. C'est la première barrière pour toutes les infections aussi, le microbiome au niveau intestinal. Donc, puis ça, tu vas avoir une plus grande variété, puis un bon profil. Puis ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus par rapport cru-croquette aussi également, puis par rapport à la variété. C'est en donnant de la variété, c'est en donnant des aliments frais à l'occasion le plus possible, c'est en évitant une surdose de choses que le chien ne digère pas bien. Si maintenant, à chaque fois que tu donnes cette gâterie-là, il s'en suit une diarrhée, bien, une diarrhée, c'est un flush. Là. C'est un flush de ces bactéries-là, quand on recommence. Fait que, tu sais, c'est s'assurer d'une santé optimale du système digestif du chien, c'est ça aussi, c'est ça va permettre à ces bactéries-là de grandir, puis de se développer, puis de faire vraiment comme un petit écosystème au niveau des intestins qui va aider énormément le chien.
Quand on parle de microbiome, là, toute la flore intestinale, qu'est-ce qu'on veut dire par le microbiome en général?
dans nos intestins, tous les animaux, puis les ruminants, c'est les kings du microbiome parce qu'ils ont un rumen qui est vraiment comme un écosystème, un animal, être vivant dans un autre être vivant. Mm-hmm. On va en rester avec nous, le chien. On a tous un microbiome. Un microbiome, c'est le mot pour décrire la population de micro-organismes bénéfiques au niveau des intestins. Ils vont contribuer énormément au niveau de la digestion, au niveau justement du système immunitaire, au niveau de l'humeur, parce que, puis au niveau de la génétique, ça, quand on va lire un peu sur la nutrigénétique, c'est vraiment comme de la science-fiction, là. C'est quand le chien digère, les bactéries meurent et se renouvellent, et meurent et se renouvellent, puis le chien va digérer les bactéries mortes, puis peut même absorber certains gènes bénéfiques des bactéries mortes pour aller jouer au niveau de son épigénétique à lui, qui est l'expression des gènes. Bref, c'est vraiment un monde de science-fiction, c'est vraiment super intéressant, mais ça a un rôle énorme. Fait qu'on s'en rend, quand on prend des probiotiques, c'est qu'on essaye d'amener des bactéries à cet endroit-là, des bactéries qu'on sait qui sont bonnes, pour lui donner un coup de main, pour essayer que ça se repopule. Quand on pogne un virus, ça peut être un virus, c'est comme la
gastro. Une bactérie, là. Ouais.
Mais un virus, ça peut, tu sais, mettons la gastro, nous, c'est un virus qui va aller toute la merde là.
Mais ils mettent un party.
C'est ça. Un party, pas pour nous, pour eux. mais tu sais, mettons une mauvaise bactérie, mettons E. coli ou salmonelle ou quoi que ce soit, mm-hmm. qui va aller là, c'est qu'elle va avoir une opportunité de se développer. S'il y a de place à se développer, si la population n'est pas assez grande, pas assez forte, il y a des, mmh. des gens qui sont plus sensibles, des chiens plus sensibles que d'autres à ces bactéries-là. Elle va s'instaurer, elle va se développer et là, elle va rendre le milieu non propice aux bonnes bactéries. Les aliments qui devraient être bien digérés ne seront pas digérés. Puis là, elle va grossir jusqu'à ce qu'on soit avec des antibiotiques, on l'a tue, ou que le microbiome réussisse à reprendre le dessus. Mais quand on prend des probiotiques, c'est pour essayer de remplir ces trous-là. Essayer de. Une fois que la salmonelle a fait un génocide à la grandeur de notre microbiome, c'est de réessayer de le repeupler. Les prébiotiques, c'est essayer de nourrir les bonnes bactéries, mm-hmm. essayer qu'elles se développent.
Qu'elles restent vivantes, là.
C'est ça, exactement. Puis ça peut être vraiment long. Ça peut aller loin aussi parce qu'une dysbiose, qu'on appelle, c'est un débalancement du microbiome. Puis ça aussi, si vous écrivez sur Google, dysbiose, chien, c'est infini l'information qu'il y a là-dessus sur toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la porosité de l'intestin, au niveau de l'inflammation, au niveau des maladies chroniques, au niveau des cancers. C'est mm-hmm. vraiment... les recherches, il y en a de plus en plus. Moi, à l'université, on en parlait pas beaucoup, il y a 10 ans. Et là, si je retournais faire mes cours de nutrition d'anatomie, je suis sûre que ça doit avoir une place énorme au niveau de l'enseignement maintenant, parce que ça va vite.
Il y a un point important aussi à dire, c'est que lorsqu'on donne des antibiotiques, il y a beaucoup de chiens qui vont attraper un truc ici et là ou whatever, ils vont avoir. Les antibiotiques sont donnés rapidement là, pour une problématique X à l'ouest. C'est important de reconstruire parce que l'antibiotique ne fait pas la différence entre un bon ou un
c'est
mauvais.
Ça. C'est ça. Il va tuer un type de bactéries, bonne ou mauvaise. Ouais. C'est important de payer pour faire analyser la bactérie. T'sais, faites-en un test de sel. Payez pour. Mm-hmm. Là, ça... Sur le coup, ça coûte plus cher de faire tester pour savoir si ça vaut la peine. Puis quel type d'antibiotique mettre aussi, parce qu'il y en a plein de ça. Mettre le bon, mm-hmm. pas pour rien. Si on doit le mettre. Puis ça va vous revenir. Même si vous ne le voyez pas en argent, si votre chien revient sur pied plus rapidement, si votre chien se remet à manger mieux plus rapidement, se remet à performer plus rapidement, vous êtes rentré dans votre argent. Là. Fait que des fois, c'est qu'il faut réagir rapidement, mais ces tests-là, ça ne prend pas 3 mois là, à faire. Là, votre chien, il est en diarrhée, vous récoltez le plus stérilement possible les selles, vous allez chez le vétérinaire, puis, ou même là-bas, des fois, ils peuvent juste aller les chercher, puis ils vont faire l'analyse, puis vous allez avoir l'antibio. S'il y en a un, parce qu'il y a des bactéries qui n'ont pas d'antibio, donc on va le donner pour rien. Ça va juste tuer toutes les bonnes. Fait que ça a sa place, mais de manière intelligente, de manière... faut analyser c'est quoi, est-ce qu'on en a besoin ou pas.
C'est super intéressant aussi en sachant très bien que, par exemple, on a beaucoup de chiens qui sont malades, qui ont des toux de chenille, des choses comme ça. Fait que même pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de rebooster un peu le système immunitaire, c'est pas mauvais. Là. C'est vraiment bien de le faire absolument. De temps en temps puis de donner des probiotiques régulièrement. Là. C'est ça, une base régulière. Là.
Ce qu'on a peur, c'est que ça ne serve à rien. Puis c'est vrai qu'il y en a qui se rendront pas aux intestins. C'est pour ça qu'encore une fois, de la variété dans les suppléments que vous utilisez, de la nourriture fermentée. Puis, je suis fatigante, vous avez le droit de me le dire. Mais la nourriture qui n'est pas transformée, c'est de la nourriture vivante. Quand on va cuire, mettons, croquette ou canne, c'est qu'on va faire comme un antibiotique. On veut tuer les mauvaises bactéries, mais on tue toutes les bonnes aussi. Fait que quand on tombe dans de la nourriture fraîche, comme je parlais tantôt, ça peut être juste des petits ajouts, ben c'est pas stérile. Ça aussi, c'est une forme de probiotique. C'est de la nourriture qui est vivante, si on veut.
En fait, on peut le répéter des millions de fois parce que je pense que c'est important. Puis en même temps, tu sais, je comprends tellement, monsieur, madame, tout le monde, il arrive dans une situation, tu sais, il y a beaucoup d'écoles de pensée au travers de tout ça. C'est plus de l'école de pensée, plus naturelle. J'utilise le terme, mais dans le sens plus, tu sais,
Je comprends.
t'as tendance à aller chercher, exemple, du gingembre directement pour te traiter, l'eucalyptus, des choses comme ça. D'emblée, tu vas embarquer dans cette école de pensée-là, plus que si t'as tendance à courir directement, tu sais, à la pharmacie, aller chercher, tu sais, des produits comme
C'est ça.
X Alouette pour éliminer. C'est juste deux écoles de pensée qui sont différentes.
C'est ça.
Mais, fait que, tu sais, je comprends que, tu sais, quand on parle de produits naturels ou qu'on parle c'est fraîche, par exemple, de la
C'est ça.
viande crue. Je comprends qu'il y a certains qui vont penser salmonelle, maladie X Alouette qui va aller avec ça. Est-ce qu'il y a des problématiques de bactéries? Encore là, c'est une question de salubrité. Elle vient de où la viande?
C'est comme les
Qu'est-ce qui a
croquettes.
été fait avec la
C'est ça.
viande?
Dans le
C'est
cru,
ça, là.
il y a toutes sortes de qualités. Comme dans
Ouais.
les croquettes, il y a toutes sortes de qualités. C'est encore une fois, la personne doit faire ses devoirs. Il y a plein de manières de prévenir ça. Puis il y en a qui ne se cassent pas la tête avec ça. Le prévenir, c'est pas grave, le chien est résistant. Fait que tu sais, il y a vraiment.
Ouais.
Il y a de tout. Puis c'est de savoir, nous, notre limite est où. Où est-ce qu'on est confortable? Où est-ce que ça nous donne plus de stress, que ça nous en enlève? Puis c'est de trouver un juste milieu par rapport à notre réalité. Puis il y a tellement, je pense qu'avec la compagnie pour laquelle je travaille, on a fait un sondage justement, puis il disait que je pense c'était 75 ou 80 des répondants, puis c'est at large, donc ça n'a rien à voir avec la clientèle, qui donnait pas juste des croquettes. Donc, qui ajoutait des choses, soit du cru, soit du cuit, soit de la nourriture végétale. Donc, de toute façon, le trois quarts des gens le font parce que c'est. Tu sais, comme on dit, c'est logique. Tu sais, moi, mettons, moi, je suis très cartésienne, je suis très science. De la manière que moi, je me soigne, je suis vraiment vite sur le Advil. Je suis pas trop produit naturel, mais je suis vendue nourriture crue parce que ça fit avec comment est-ce que je vois la nutrition, mettons, par rapport à tous les autres animaux sur la planète. Tu sais? Fait que c'est pour ça que, tu sais, exact. Ça va aller chercher en premier lieu ceux qui se renseignent, ceux qui vont, par rapport à, je veux dire, OK, se renseigner, c'est pas le bon terme, par rapport au naturel, comme tu disais tantôt.
Mais non, en fait, je pense que je sais ce que tu essaies de dire, Julie, c'est que même si tu es plus dans le naturel ou que tu sois dans n'importe quelle école de pensée, c'est que la science le démontre très bien, que cette nutrition-là est adaptée à l'animal qu'on a en face,
C'est
malgré
ça.
toutes les choses qui pourraient se dire d'un professionnel
C'est
X
ça.
Alouette, il
C'est
y a
ça.
autant de science des deux côtés qui va prouver l'inverse, au même titre que nous en comportement.
Végétariens. C'est ça, il y en a des
Ouais.
végétariens qui vont donner du cru, il y a des anti-vaccins qui vont donner du cru, il y a des vétérinaires qui
Ouais.
vont donner du cru, tu sais.
Exact.
Ça regroupe tout le monde, puis encore une fois, comme je disais, c'est pas, ça prend, faut pas nécessairement que donner du cru pour avoir des performances sportives. Puis moi, j'aime bien travailler avec tous les types de nourriture, je trouve ça super intéressant, puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tout. Mais c'est ça, je suis vendue.
Oui, puis c'est bien d'avoir une école de pensée puis de vouloir, tu sais, maintenir cette école-là. Puis je pense que chaque client, pour avoir travaillé beaucoup en clientèle, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du chien, tu sais, à un moment donné, on a des choses qu'on voit puis qui reviennent tout le temps. C'est tout le temps d'assumer un peu l'école de pensée qu'on va prendre puis d'être en accord personnellement avec ce qu'on donne à son chien. C'est vraiment
Avec ses
important,
valeurs.
avec ses valeurs, pour que quand on arrive, que ce soit chez le véto ou qu'on arrive à garderie, nous, à garderie, quand on a des chiens en pension de dressage, on déteste le cru parce que c'est tellement du management qu'on est comme, Seigneur, c'est une job de plus. Mais en même temps, je comprends que le client veut aller dans cette direction-là, puis le respect de chacun dans ses décisions aussi, là, c'est vraiment
Exact.
important. Puis le fait aussi d'y aller personnellement dans ta décision, c'est qu'après ça, quand on se fait challenger dans la vie de tous les jours, parce qu'on se fait challenger, peu importe la décision, comment, ben, tu es capable d'apporter tes points puis tes choses, puis dire, regarde, moi, c'est comme ça que je vais, les résultats sont là, Excel web, puis c'est le même que je m'en vais. C'est plus facile d'affronter la vie dans un sens.
Oui. Tu sais, moi, les questions que tu me poses aujourd'hui, si on refaisait un podcast dans une couple d'années, ça se peut que je n'ai pas les mêmes réponses parce que je pense que tu arrêtes d'être professionnel dans la vie la journée où tu penses que tu sais tout. Puis moi, maintenant,
Ah,
j'en sais
totalement.
assez pour savoir que je ne sais rien.
Exact.
Donc, je pense que c'est vraiment important justement d'être à l'écoute des opinions des autres. Puis c'est pour ça que là, on divague vraiment là, du sujet, mais pour ça que j'engage toujours la discussion avec des gens qui sont très, très aussi anti-tout. Parce que je pense que c'est de même qu'on grandit, puis c'est de même qu'on apprend. Puis des fois, quelqu'un va me dire quelque chose, je vais faire « Hey, ça, c'est vraiment pas épais ce que tu me dis. » Puis je vais le regarder, puis des fois, je vais dire « Oh non, il n'y avait pas raison. » Puis des fois, je vais dire « Ah, non, c'était bien. » Je vais rajouter ça dans mon petit livre de connaissances.
Je trouve ça intéressant parce que autant dans le domaine de la nutrition que le comportement, tu sais, il n'y a pas de recette miracle. Non. Tu sais, on travaille avec du vivant, avec un individu, avec de la génétique. De la génétique qui, des fois, ne va pas toujours dans le bon sens dans certains cas. Fait qu'on doit dealer avec plein de composantes. Fait que ce qui est ta réalité n'est pas nécessairement la mienne selon la race de chien que j'ai. Fait que le respect de chacun au travers de tout ça, tu sais, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas vendus dans un ou dans l'autre. Mm-hmm. Parce que ma job, c'est pas d'être vendu non plus. Dans mon domaine, je peux pas commencer à me braquer et dire, ben, ça n'a pas de bon sens que tu donnes mm-hmm. ça. Par contre, je trouve ça dommage que mon client soit toujours challengé sur ses décisions, par exemple. Puis qu'à toutes les fois, puis c'est limite de rendre coupable, là. C'est plus ce côté-là, là. C'est de faire sentir le client coupable de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il y a, là. T'sais, puis de s'y connaître, puis de.
Ben, si tu le dis, c'est de faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Si tu n'as pas les moyens de nourrir ton chien avec telle giga marque extraordinaire, ouais. Tu peux quand même faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de culpabiliser puis de dire, bon, ben, ça va être ça, puis tant pis, puis anyway, je ne peux pas rien faire. C'est pas vrai. Puis c'est la même chose dans le comportement. Il y a des choses que tu ne peux tout simplement, j'imagine, c'est pas mon domaine, mais tu ne peux tout simplement pas faire ou qui ne sont tout simplement pas un avenue. Soit par tes valeurs, soit parce que ça, ta force physique ou juste ce que tu as par chez vous. Si tu habites dans un appart à Montréal, c'est pas comme chez moi où j'ai accès à non. des champs. Tu sais, c'est pas. J'imagine que c'est tout pas pareil. Puis non, mais exactement. Je pense que ce qui fait qu'un professionnel reste un professionnel, c'est sa capacité à s'adapter, absolument.
Totalement. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'en ayant de la nourriture qui est plus adaptatif, on va l'avoir, c'est que tu arrives à l'épicerie et tu as un spécial sur yoga. Tu sais, tu peux t'en griller de 2-3. Tu arrives à un spécial sur des bleuets congelés. Tu sais, tu peux remplir ton congélateur. Fait que c'est toutes les choses qui sont beaucoup plus une belle alternative au niveau financier. C'est présentement que de commencer à vouloir supplémenter avec des produits qui sont peut-être plus dispendieux, là, tu sais, qui sont plus
exactement.
Qui sont plus chers, les sardines qui arrivent en spécial. Est-ce que tu as un conseil au niveau des sardines dans l'huile ou dans l'eau?
Dans l'eau, idéalement. Et il y en a maintenant qui, dans le fond, ça, c'est on parlait d'aliments toxiques tantôt. Il y a des aliments qui étaient toxiques, qui ne le sont plus, puis qui leur deviennent. Puis bon, la tomate était toxique, mais c'est pas toute la tomate qui est toxique. Dans le fond, tu as certaines choses, mettons le jus de tomate et compagnie, ça peut être bon pour le chien, mais il y a un antioxydant qui est unique à la tomate qui est super anti-cancer. Fait qu'il y en a que je vois dans le domaine qui vont donner des sardines dans. C'est comme juste dans du jus de tomate. Fait que je ne l'ai pas encore essayé, moi, avec mes chiens. Mais ça se vend aussi. Mettons que tu dis, ah, je ne suis pas sûre de trouver la bonne sardine. Ce n'est pas nécessairement moins cher, mais tu peux en acheter congelé dans les animaleries. Toutes les marques de trucs pratiquement en vente maintenant, là, des sardines. Fait que tu dégèles, faut pas. Tu mets ça dans le bol. C'est sûr que quand il est en canne, c'est qu'il est cuit. Quand on n'est pas à l'aise avec le cru, ça peut être intéressant. Fait que dans l'eau, dans l'huile peut-être, mais il faut le rincer. L'important, c'est qu'il ne faut pas que ça soit salé. C'est ça le plus important. Il y en a qui sont dans l'eau salée, ça c'est non. Mais sinon, dans la tomate, c'est bien. L'huile, on le rince un petit peu. À moins que le chien ait une dépense d'énergie astronomique et prend tout le gras qu'elle peut prendre, on peut donner dans l'huile, c'est pas grave. Ou sinon dans l'eau.
Puis au niveau de la nutrition, bon, le cru versus croquette, les gens peuvent maintenant aller s'alimenter d'une quelconque façon à l'épicerie. On peut aller trouver des trucs qui sont intéressants. Est-ce que tu as des quantités? Par exemple, gros chien, moyen, petit chien.
Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, en termes de quantité de nourriture pour le cru, c'est ça?
Par exemple, moi, je vais donner de la sardine à mon chien. Deux, la boîte complète. Je vais donner un œuf, deux œufs. Y a-t-il des quantités à respecter? Ouais. À peu près, là, on s'entend qu'on y va.
Le meilleur ami de tout propriétaire de chien, c'est une balance de cuisine. Mm-hmm. C'est vraiment. Puis là, je suis encore donnée mal chaussée parce que des fois, j'oublie de peser. Puis mes chiens viennent gras. Mais bon. C'est que justement, tous les ajouts comptent. Puis la règle d'or, c'est un minimum de 20 % puis un maximum de 25 % parce que si tu dépasses 25, c'est que tu débalances tout le reste de ton alimentation. Fait qu'entre un cinquième et un quart de ce que tu donnes. Fait que le plus simple, c'est que tu pèses qu'est-ce que tu donnes d'habitude. Mm-hmm. Puis un quart de ce poids-là peut être n'importe quoi d'autre.
Est-ce que ça fonctionne aussi avec la croquette?
Oui. Mettons, je vais y aller avec ma tasse de croquette, elle pèse, je ne sais pas. Moi, souvent, on va le voir sur leur site. La tasse de croquette pèse, mettons, 400 grammes. Mm-hmm. Bon, ben un quart de 400 grammes, je n'aurais pas dû faire ça.
Ah! Peu importe. Tu calcules le un quart de 400 grammes qui serait 100 grammes.
J'en disais que 400, c'est 100. Je suis tellement poche.
C'est pas grave.
Ah, bon, oui. Donc, 100 grammes, ça peut être un œuf, des bleuets, une combinaison, ça peut être des sardines, ça peut être... Tu sais, c'est grossièrement. Il y a sûrement des experts en nutrition qui grincent des dents à m'écouter parler parce que les autres, ils voudraient tout calculer. Puis c'est correct, c'est bien correct. Puis oui, c'est vrai que ça serait mieux de rentrer tout ça dans un logiciel puis de voir quel est le réel impact de cet ajout-là sur la nutrition. Moi, c'est pas de même que je me nourris, c'est pas de même que je nourris ma fille. Je suis pas mal sûre que mes chiens, de deux fois semaine, quand que je réduis d'un quart de la portion puis je donne une sardine à la place, je suis pas mal sûre que ça augmente la valeur nutritive de sa diète au lieu de la diminuer. Puis quand on se maintient à un quart, on va pas plus haut que ça. Chiot peut-être plus modérément, mais on n'a pas de risque de complètement débalancer la diète du chien.
Puis on s'entend que monsieur...
par de la viande hachée. On peut pas faire ça.
Non, puis on comprend aussi que monsieur, madame, tout le monde ne sera pas exactement au gramme près, là.
Mais une fois que tu le fais, tu le sais. T'sais, mettons, une fois que tu le fais, tu le sais. Tu sais qu'un œuf, ça pèse, mettons, 90 grammes. Bon, c'est à peu près un quart. Bon, ben je peux mettre un œuf, puis au lieu de donner une tasse, je donne trois quarts de tasse. T'sais, une fois que le petit trick est fait, mais après ça, on s'en souvient que, bon, mais pour mon chien, un œuf, ça fait, mettons.
Mm-hmm. Fait que quand on mesure, qu'on y va poids pour le poids prorata, fait que si on donne exemple du yogourt et des bleuets, par exemple, parce que je me fais un yogourt ce matin et que mon chien a le droit à une portion ici, ben ça va être de calculer à ce moment-là, juste s'assurer qu'on a la bonne portion.
Puis c'est ça, de le valider une ou deux fois, tu sais, de faire comme, OK, ma cuillère de yogourt, elle pèse comment? Bon, mais je vais en enlever un petit peu. C'est sûr que, tu sais, le yogourt, c'est humide, la croquette, c'est sec. C'est pas parfait, là. C'est vraiment pas parfait comme calcul. On se met pas dans la merde à faire ça de même.
Exact. Puis, encore là, on va le voir tout de suite aussi avec le chien. Quelle est son attitude? Est-ce qu'il y a des selles molles? Est-ce qu'on peut aussi aller varier au travers de ça, j'imagine?
Absolument.
Exact. Il n'y a rien de mieux que de checker qu'est-ce qui sort pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans. Là.
C'est ça. En fait, ça.
C'est toujours à valider. Hey, Julie, je sais qu'on avait un temps limité et qu'on arrive pas mal dans notre temps limité. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui sont vraiment importantes pour toi? Est-ce que les gens qui ont un chien sportif... qu'est-ce qu'on pourrait, tu sais, leur dire ou qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ou qu'est-ce qu'ils devraient faire attention qui ferait toute la différence et s'assurer que c'est fait?
Quand on avance dans notre sport puis qu'on veut commencer à performer, mais souvent, on va faire des choses autour de la pratique du sport. Nous, on va s'entraîner, on va faire du fitness à notre chien, on va le faire courir, il va avoir tout un programme autour de la performance pour, mettons, l'EGP. Tu ne fais pas juste de l'EGP, je suis sûre que tu fais plein d'autres choses pour augmenter la performance. L'alimentation devrait en faire partie. Ça devrait faire partie de la liste de choses autour de la pratique du sport comme telle qui est faite pour favoriser la performance. Donc, c'est vraiment de ne pas négliger cet aspect-là, de prendre le temps de retourner votre sac ou de regarder sur votre paquet de cru c'est quoi l'analyse, de poser des questions aux compagnies. Ils vont vous répondre. Le trois quarts vont vous répondre. Si vous ne vous répondez pas, c'est un red flag de toute façon. Ils répondent et ils répondent. Donc, c'est de changer dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment juste. C'est pareil que l'entraînement. Tu ne peux pas rien faire puis t'attendre à une performance optimale. Il faut que tu mettes des heures d'entraînement, il faut que tu varies ton entraînement. C'est la même chose avec la nutrition. Ça devrait avoir autant de place dans tout le processus de performance sportive, peu importe le sport.
Puis au niveau, tu sais, des amis qui vont... parce que, tu sais, on a tendance à suivre tout le temps une école de pensée, là, tu sais, toute ta gang d'agilité donne du cru, ben t'embarques dans la gang. Puis, c'est un peu d'emblée, faire attention de peut-être revoir à ce que son chien, la formule fonctionne bien, de s'évaluer régulièrement, j'imagine.
Exactement. Pour notre chien, le chien en avant de nous.
Oui, exact. De refaire tranquillement, de revérifier, voir est-ce que tout est fonctionnel, est-ce que la performance, est-ce que prendre des notes pour voir s'il n'y a pas des choses, il y a-tu des trucs? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait évaluer, mettons, physiquement, visuellement sur notre chien, qu'on va voir tout de suite la différence entre une bonne nutrition et une difficulté à ce niveau-là?
C'est sûr que plus on va aller chercher de la performance de haut niveau, plus des petites choses vont faire une différence en termes de ça te prend combien de secondes faire le tour de la piste versus tel autre chien. Puis c'est beaucoup, beaucoup par essai-erreur parce que malheureusement, les chiens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas dire « ça me tire ». Épaule dans ce run-là, il va juste jusqu'à ce qu'il boite, il est comme trop tard. Donc, c'est beaucoup par essai-erreur. Puis, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer au niveau de l'horaire d'alimentation. Je ne l'ai pas mentionné, puis ça, c'est super important, mais l'hydratation, c'est le meilleur supplément que vous ne pouvez pas donner à votre chien. L'eau, c'est absolument, absolument essentiel. Puis, je parle d'eau, là, pas solution d'électrolyte, puis quoi que ce soit, là, de l'eau. Dans le repas, être sûr que dans la journée d'effort, il est très, très bien hydraté. Mais pour en revenir à qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est de noter Est-ce que mon chien a moins bu, plus bu? Y a-t-il un gros déjeuner? Je ne l'ai-tu pas nourri? Est-ce que, mettons, quand je donne tel type de protéines, il est moins... C'est surtout quand, mettons, on a un problème, mettons, de concentration ou... je pense beaucoup à l'agilité parce que c'est ça que je fais, mais tu sais, mon chien sent beaucoup par terre, il n'est pas focus avec moi, il allait moins vite, il a claqué beaucoup de bords. Tu sais, c'est des fois, s'il y a un problème ou que ce n'est pas optimal, on n'arrive pas à aller chercher cette seconde-là de plus. Oui, prendre des notes, avoir un journal, ça demande un plus gros effort, mais c'est comme une des seules manières de créer. À chaque fois qu'il y a du saumon, il y a des selles molles. Donc, ce n'est pas nécessairement il y a des selles molles en concours. Parce qu'il l'a aussi quand je donne du saumon chez nous. Fait que tu sais, c'est de faire, oui, tenir un journal quand il y a une problématique, ça peut être super pertinent pour identifier, ah, c'est ça le point commun. Ou, hein, aujourd'hui, mon chien n'est pas performé, je ne comprends pas. Ah, mais il n'a pas voulu boire de la journée, il n'a pas touché à son bol d'eau en moment-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas bu? C'est juste parce que l'eau ne tentait pas. Le stress, ça l'enlève les signaux de déshydratation. Fait que tu sais, il y a plein de choses comme ça que... Si la personne a la rigueur de tenir un journal, c'est en alimentation parce que le chien ne peut pas parler, c'est une des meilleures façons de voir qu'est-ce qui peut être un point commun à quelque chose qui cloche.
Puis, à mon avis, à moi, c'est la meilleure façon aussi en comportement, bon, parce qu'on a tendance à focusser juste sur le négatif puis pas voir les plus. Là, fait que des fois, de pouvoir prendre en note qu'est-ce qui se passe, un petit carnet de bord pour pouvoir s'aider. Puis, honnêtement, quand tu es rendu dans des sports, là, que tu décides de faire, OK, moi, je veux faire de la compétition, on s'entend qu'il y a une rigidité puis une certaine discipline qui doit venir avec. Là, sinon, tu fais rien. Moi, je fais du IGP, mais c'est vraiment par plaisir parce que j'aime ça. Mon travail ne me permet pas de pouvoir entraîner de façon très rigide. Ouais. À un moment donné, on
fait des choix
du client. Oui, ouais, c'est exact. Mais quand tu es rendu à faire de la haute performance, chose comme ça, ça vient comme d'emblée avec. Là,
faut que, c'est là, toi, tu t'entraînes pour ton sport, tu entraînes ton chien pour ton sport, ben, c'est juste d'ajouter le suivi alimentaire là-dedans, en fond.
Puis, est-ce que tu recommandes d'emblée, par exemple, moi, je déciderais, OK, regarde, là, je me fixe un objectif de shoot-sum, IGP, puis avec mon berger allemand, j'ai un gros berger allemand mâle, moi, de 80-90 livres, là, c'est un coffre, tu sais, puis qui a été vraiment très, très malade, plus jeune, fait que, tu sais, j'ai dû remonter toute la masse musculaire, en tout cas, on a réussi à le remonter la pente, mais ça a été tough. C'est d'emblée de partir. Moi, mon réflexe, ça serait de commencer par stabiliser la nutrition avant même de commencer un effort physique. Pour limiter les risques de blessures?
Absolument. Ben oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu travailles un petit peu dans le beurre. Tu réussiras pas à aller chercher d'optimiser tes entraînements, d'optimiser ta croissance musculaire si le système digestif ne marche pas bien. Fait que c'est comme quand que des gens viennent me voir par rapport à des allergies. Et là, on va aller souvent sur une diète d'élimination parce que bon, les tests d'allergie coûtent plus cher, puis la diète d'élimination, ça peut être une bonne option. Et là, la personne angoisse que le chien n'a pas une nutrition complète parce que la diète d'élimination, ben, c'est très, très strict, puis c'est une protéine, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais ça, on s'en fout. Ton chien, il a des selles molles, il se gratte. Et même si tu donnes une diète complète, probablement qu'il métabolise pas comme faut ses nutriments, il les absorbe pas bien, c'est débalancé. Ton foie, il est tellement occupé à gérer ta réaction allergique, il est capable de gérer. Fait que de toute façon, c'est pas le temps d'angoisser avec tes grammes de zinc, là. Pas ça le problème. Le zinc, on angoissera. Une fois que ton chien il a arrêté de se gratter, les selles sont belles, c'est beau, on a repris le contrôle. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme source de zinc à cette heure qui ne le fera pas réagir? Tu sais, c'est ça, c'est d'y aller.
Exact.
Tu as 100% raison de dire qu'à un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer de travailler avec un symptôme quand tu n'as pas corrigé la source, dans le fond. Parce que le symptôme va peut-être disparaître avec. En corrigeant la source, tu sais, ta performance sportive, elle a peut-être de la misère parce que ton chien a un problème digestif. Puis, il y a quelque chose de bien, bien important aussi au niveau, ça c'est moins mon domaine, mais je serais bien curieuse de parler de ça avec genre un vétérinaire, un ostéopathe, peu importe, là, c'est que le nerf vague passe très, très proche des intestins et passe très, très proche de plein de choses et a un rôle extrêmement important. Et c'est aussi fou que des douleurs au dos du chien peuvent être causées par de l'inflammation au niveau de l'intestin. Puis tu t'en rends pas compte parce que les selles sont pas si pires ou tu portes pas trop attention à ça. Puis ton chien a des douleurs au dos. Il y a plein de signes de douleurs au dos. Mais il n'y a pas de douleur au dos. C'est le nerf vague qui est stimulé, qui lui donne l'impression qu'il y a une douleur au dos. Fait que, c'est ça. Il y a plein de choses qui partent de là. Puis souvent, en réglant ça, bien, sans t'en rendre compte, ça se peut que tu règles bien d'autres affaires.
Bien, en fait, moi, je peux te le confirmer de sources sûres et de je l'ai vécu. Mon berger allemand, sa problématique, c'était exactement ça.
OK.
Après visite d'un vétérinaire ostéopathe, on a travaillé dans le fond au niveau de son dos, puis on a travaillé au niveau de son estomac, puis le problème s'est réglé quasiment instantanément. Fait que, tu sais, c'est,
ah oui, oui.
C'est vraiment, moi j'ai un très grand chien, je veux pas, tu sais, on utilise la cage en bas âge pour travailler certaines affaires, ça l'a amené, tu sais, son lot de situations. Il y a une problématique, il veut pas de vomir constamment, puis d'être constamment
diarrhée, oui.
Ça crée des douleurs aussi. Même pour nous, tu sais, mets-toi dans une situation comme ça, tu as mal partout. Fait que,
c'est la même chose chez le... Notre récente gastro du temps des fêtes, là, c'est ça. Il y avait des douleurs liées. Vive la garderie, hein. Il y avait des douleurs liées au vomissement.
Exact. Fait que, des fois, de pouvoir aller travailler, tu sais, tout le monde ensemble aussi, puis de pouvoir collaborer, c'est bien, là, tu sais, de travailler avec des médecines différentes. Ça fait toute la différence.
Absolument. Sans
fixer. Fait que moi, pour vrai, ça, je suis sûre et certaine que je vais ramener mon chien comme ça. Totalement.
Mais en même temps, tant mieux si tu as réussi à trouver quelqu'un qui t'a amené dans cette direction-là, dans cette réflexion-là, puis que ça vous a permis en travaillant ensemble de régler la situation. Là, c'est extraordinaire.
En fait, moi, je suis une fille de chevaux à la base. Fait que toute la locomotion, tout le corps du chien, c'est un premier réflexe, c'est de voir toutes les boiteries. Mon œil est fait pour ça. Fait que je le vois tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui cloche, qui débalance.
Tu vois le petit mouvement de tête.
je le vois tout. Il y a quelque chose qui cloche. Mais je peux pas te dire c'est quoi, je dis juste c'est quoi qui marche pas. Puis c'est docteur Patricia Laforte qui travaille avec moi. Je pense qu'elle maintenant n'en fait plus, mais en tout cas, elle est extraordinaire. Tu sais. Puis après, je dis, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Je sais pas. Puis elle a compris ce que je veux dire.
Oui, non, ben oui, ben c'est parce que tu connais ton chien, puis ça s'applique à tout le monde. Vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre chien. Donc,
exact.
C'est votre œil qui est important.
Puis l'instinct, tu sais, puis tout ça qui vient avec. Je me disais, honnêtement, moi, j'ai des douleurs au dos qui m'emmenaient des problèmes d'estomac. J'ai traité avec l'ostéopathe, je suis là, ça serait ironique que mon chien soit pareil. La joke, c'est que
c'est exactement... pas si ironique, ça l'arrive souvent. Ça l'arrive très souvent.
Je sais, je le dis comme ça parce que ça arrive tout le temps. Fait que, si je me dis, bon, t'as mal une patte, ton chien, on m'emmène une patte. Fait que, c'est souvent de pouvoir garder une ouverture d'esprit à ce niveau-là aussi, c'est vraiment important là, pour aider son petit chien à aller mieux.
Absolument.
Écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions. J'ai répondu aussi à toutes. Attends, je pense que j'aurais peut-être une dernière question, juste la dernière petite slide, parce que là, je viens d'avoir un flash. Exemple, OK, je veux travailler un chien avec plus de focus.
Ouais.
Mettons, parce que nous, on ne veut pas en IGP, l'obéissance, le focus, c'est un niveau extrême, un peu comme en freestyle, un peu comme dans des... comme en agilité aussi, tu sais, le focus, même s'il n'est pas sur toi, il est en avant.
Oui, à la tâche, mettons, on va dire
ça. Oui, c'est ça, exact. Le niveau de concentration est vraiment, vraiment demandé. Donc, quel sera un supplément ou qu'est-ce qu'on devrait faire attention pour augmenter ce niveau de focus?
Oméga 3, EPA, DHA, huile de poisson, sardine entière. La santé cognitive, les acides gras sont vraiment essentiels. Puis c'est parce que, comme on disait, dans les croquettes, souvent, sont détruits. Puis c'est parce que ça a plein d'avantages aussi au niveau de l'inflammation et compagnie. Mais dans le fond, notre cerveau est principalement composé de ça, acides gras, DHA. Fait que c'est vraiment c'est un des ajouts qu'on peut faire sur tous les types de nourriture. C'est de faire attention quand la nourriture contient, mettons, déjà beaucoup de poisson, c'est que tu ne veux pas trop se compenser. Mais en même temps, vu qu'elle est cuite, ben les acides gras sont peut-être à 50 % puis là non plus. Fait que, mais je te dirais, huile de poisson, l'huile de poisson, l'huile de chanvre, ça n'amène pas ça. PADHA, il n'y en a pas dedans. L'huile d'olive, tout ça, il n'y en a pas dans les plantes. Là, fait que c'est vraiment l'huile de poisson, hareng, saumon, maquereau, gobert aussi. Je ne suis pas sûre qu'il y en a. Il y a vraiment. C'est sûr. Ça serait ma réponse. C'est simple, hein? C'est rare d'habitude, c'est compliqué, mais là.
Oui, mais j'aime ça, moi, parce que là, là, ça m'a amené une dernière question. Parce que je peux le garder même jusqu'à 5 heures. Le fait de... Parce que là, tu as apporté, dans le fond, nourriture à base de poisson. Et là, ça m'amène à dire mercure.
Oui.
Tu sais, il faut quand même valider à ce niveau. La problématique du poisson, trop c'est comme passé, c'est surtout au niveau des minéraux puis de...
Des métaux lourds, des contaminants.
Des métaux lourds, ouais.
Puis je te dirais aussi des balancements des acides gras, ça, là, c'est quand même, c'est niaiseux, mais ça, un chien, c'est pas fait pour ben, certaines races là, qui sont correctes. Ça, hein, toujours de quoi. Puis certaines populations, mais c'est pas fait pour manger une diète à base de poisson. C'est pas fait pour ça. Ouais. Mais c'est rare que les croquettes vont être juste à base de poisson parce que souvent, ils vont aller chercher du grain pour compenser, pour faire la structure de la croquette, puis ils vont aller rebalancer les acides gras. Souvent, ils vont rajouter de l'huile de canola aussi pour balancer ça. Mais effectivement, même nous, manger du poisson, c'est bon, mais il faut faire attention. Lorsqu'on est dans le petit poisson, hareng, maquereau, sardine, le niveau de contaminant, il est très, très bas. Mais plus on grossit thon, saumon et compagnie, là, il faut faire attention. Puis, où c'est important, c'est que, dans le fond, la compagnie doit suivre les mêmes normes que consommation humaine. C'est que, dans le fond, ils doivent faire les mêmes tests au niveau de la teneur en métaux lourds et en contaminants que ce qui est fait sur notre poisson à nous. Donc, le zéro n'existe pas juste parce que nos océans sont tellement pollués que ça ne se peut pas. Moi, justement, dans la sardine, pratiquement pas, là, mais il existe des alternatives comme l'huile de krill, l'huile de phytoplancton, l'huile d'algues. Donc ça, c'est très, 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 très faible en contaminants, même pratiquement inexistant. C'est plus cher, mais ça en prend moins. Fait que il y a ça. Mais de la nourriture, mettons, moi, je ne donnerais pas à mes chiens une nourriture à base de poisson, seulement de poisson ou en très grande majorité sur le long terme. Est-ce que ça peut faire partie de la rotation? Absolument. Il y a des marques que tu as avec au poisson, viande rouge, absolument. Mais là, dans ta rotation, ça va. Puis justement, si tu as des aliments comme bleuet et compagnie, ton foie va être capable de gérer les métaux lourds. À certains points, notre corps, comme tu disais tantôt, il est très, très résilient, il peut s'adapter très, très bien. Le chien, c'est pareil. Si le foie est en santé, si le système, le métabolisme est en santé, ils vont le gérer jusqu'à un certain niveau. Fait que, effectivement, une nourriture à base que de poisson tout le temps, toute la vie du chien, moi, c'est pas ma recommandation.
Non, puis ça fait sens aussi un peu comme nous autres. Là. Ça revient toujours au même quand on se penche sur la question de où ça vient, de qu'est-ce qui est fait, de comment c'est métabolisé et tout cela.
C'est ça, exactement.
Super. Merci, Julie. Écoute, je te laisse cette conversation-là. J'espère que ça pourrait être cool de le refaire. Je te piège pas. Écoute, pense-y si jamais c'est quelque chose.
Non, mais c'est super. Oui, absolument. Ça ne me dérange pas. Je vais essayer de fitter ça. Elle était squeezée quelque part dans mon horaire, mais absolument, c'est super agréable et ça va me faire plaisir d'en revenir si jamais il y a d'autres questions qui viennent ou d'autres sujets qui viennent à l'esprit.
C'est sûr que je vais avoir d'autres questions, mais souvent, en fait, c'est plus les gens qui vont peut-être avoir des questions pour toi pour la prochaine fois.
Okay.
Tu es disponible au niveau de ton livre, ta page Facebook directement. Et tu as un séminaire aussi, là, c'est le 9 de mars.
C'est ça, exactement.
C'est chez François Leblanc à Baie-Saint-Paul, hein?
Non, je le donne à Saint-Isidore, chez Entraînement Canin Québec. Il y a une salle là-bas que j'avais accès vraiment très facilement. Donc, super génial, mais je suis ouverte à le donner ailleurs. J'ai des demandes dans le coin de Montréal. J'ai des demandes pour qu'il soit en ligne. Donc, je vais ajuster aux besoins. Chez François, on va peut-être essayer de le refaire. On avait essayé l'année passée, ça n'avait pas fonctionné. Puis là, il est dans ses agnolages, si je me souviens bien. Donc, ça a donné comme pas, mais si ça réadonne un moment, ça va me faire plaisir d'aller le donner chez François aussi. Si on réussit à se trouver un moment, c'est tout le temps ça.
C'est une date.
C'est trouver une date, un local, quelque chose qui fit, qu'il n'y a pas. C'est les événements canins aussi. Il y en a plein tout le temps, à tous les jours. Fait que j'ai essayé de trouver une date qui était disponible pour tout le monde. Donc, fait que c'est ça. 9 mars, Saint-Isidore, puis pas de problème pour le donner ailleurs si la demande y est. Ça va me faire plaisir.
Bien, nous, on serait peut-être intéressés à Sherbrooke alors. C'est sûr que là, moi, je suis dans le coin de Québec, mais à Sherbrooke aussi, nous, on a une salle. Si jamais tu es intéressé, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi.
Absolument. Demande est là, c'est plus près de Montréal. Donc, absolument. Mm-hmm. Ça va me faire plaisir.
Certainement. On peut regarder ça. On est à l'intérieur, on travaille avec la grande ménagerie, donc c'est vraiment tout le volet nutritionnel va avec ça. Et je pense qu'ils font affaire aussi avec Big Country Raw, donc c'est pas une problématique à ce niveau. On pourra tout mettre ça ensemble. Donc merci à toi, je te laisse aller. Bon week-end, puis on reprend ça pour un autre podcast.
Bon, extraordinaire, salut, à la prochaine.
À la prochaine, merci Julie.